la poésie, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas ? Je ne parle pas seulement de la poésie contemporaine, de la poésie d'aujourd'hui, je parle de la poésie de Hugo, je parle de la poésie de Virgile, d'Homère, de Mayakovsky ou de Pablo Neruda, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait qu'on en a peur ? On n'y va pas. Je pense que les idées qu'on a acquises du rapport à la poésie, dès l'enfance justement, et particulièrement dans le monde scolaire. Vous savez, moi je suis enseignant, j'ai été longtemps formateur d'enseignants, dans un IUFM, j'ai travaillé à la mission pour les arts et la culture au sein du cabinet langue dans les années 2000, donc j'assume complètement ma fonction d'enseignant. Mais en même temps, je suis très sévère sur la façon dont l'enseignement a, avec la meilleure volonté du monde, avec la meilleure volonté, les meilleures intentions du monde, a détourné au fond beaucoup de gens de la poésie. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Parce qu'on a fait de la poésie d'abord un objet d'étude, n'est-ce pas ? Un objet scolaire, au fond. Mais c'est vrai, vous le savez, la question se pose pour tout objet littéraire. Toute littérature dont on fait un objet d'étude, eh bien, ça tend à éloigner l'enfant, puisque ça devient le lieu de la mise en examen de l'individu, de la mise en examen de ses compétences, de son savoir-lire, de ses capacités de déduction, de ses capacités imaginatives, etc. Mais à partir du moment où on est jugé dans un acte, on n'est plus à l'aise, on n'est plus libre, n'est-ce pas ? En tout, n'est-ce pas ? Si vous étiez jugé au moment où vous allez au cinéma, jugé, imaginez ça, jugé après votre moment au cinéma. Si à la sortie, on vous interrogeait, on vous demandait de commenter, d'analyser, et on vous dit, attention, on va tenir compte de votre analyse, n'est-ce pas ? Et on va voir si vous êtes un bon cinéphile. Au bout d'un moment, vous n'iriez plus au cinéma. Hein. Vous voyez la pression qui pèserait sur vous, et comment la relation libre, le commerce libre avec l'imaginaire du film, ben, vous n'y accéderiez plus, ça vous ferait fuir. Donc, le fait que le poème est devenu très particulièrement un objet d'étude de deux façons, n'est-ce pas ? À travers la récitation, parce que c'était un apprentissage par cœur, les mains derrière le dos la plupart du temps, vous voyez, un peu figé comme ça. Quand je dis mains derrière le dos, ce n'est pas par hasard. Un peu figé, ou les bras croisés. Hein. Et puis cet apprentissage par cœur commandé et sanctionné par la note qui sanctionne ici, elle manque son objet la plupart du temps, elle sanctionne la mémorisation. Or, bien dire un poème aimé, un poème, ça n'a rien à voir avec la mémorisation, n'est-ce pas ? Je ne dis pas que la mémorisation ne peut pas y contribuer, je ne dis pas l'inverse. Je dis simplement que ce n'est pas parce qu'on sait par cœur un poème qu'on aime la poésie et qu'on y accède. Ça, ce n'est pas un effet immédiat. La preuve, les 9 dixièmes des jeunes Français, depuis un siècle et quelques qui a une école publique, ont appris par cœur des poèmes. Ça n'a pas fait des lecteurs de poésie. Il y a des gens qui achèteraient des livres de poésie, qui en emprunteraient en bibliothèque ou qui en parleraient dans la vie, n'est-ce pas ? Et donc il y a ça, il y a surtout cette maudite tradition que j'ai beaucoup contestée dans des articles, du reste à l'usage des enseignants, de l'explication de texte. L'explication de texte ou le commentaire savant, la glose, l'exégèse, telle que c'est pratiqué jusqu'à l'université. Bien sûr, ce ne sont pas des exercices stupides. Je ne suis pas un béotien ni un obscurantiste. Bien sûr que le savoir sur la chose faite est intéressant. Ce savoir est intéressant et d'ailleurs toute œuvre d'art, comme tout geste humain, tout fait humain, suscite son commentaire. Comment c'est fait ? Pourquoi on l'a fait ? Etc. Je ne dis pas que c'est sot. Je dis qu'on ne doit pas commencer par là. N'est-ce pas ? C'est après que devrait venir cette approche savante, donc analytique, donc à distance du texte. Et quand on commence par là, l'école dans la tête des enfants, c'est le poème appris par cœur, d'une part avec la note, et ensuite l'explication de texte. Donc quand on devient adulte, on a cette idée-là, cette mémoire-là de la poésie. Et la poésie, c'est un truc scolaire, c'est un truc pour montrer ses compétences. Et bien sûr, on a eu quelques émotions qui, heureusement, ont pu vivre quand même, parce que le poème a une force irradiante qui passe les blindages pédagogique, vous voyez ce que je veux dire ? Ça arrive à nous atteindre quand même, mais quand même, ce dont se souviennent la plupart des jeunes et que je rencontre partout, et des moins jeunes d'ailleurs, que je rencontre partout et qui n'ont pas un accès fréquent à la poésie ou qui l'ont mise au rebut, c'est ce que je rencontre partout, c'est cette défiance qui naît de leur pratique scolaire, n'est-ce pas ? Et c'est trop dommage, parce qu'encore une fois, les enseignants, ils ont les bonnes intentions. Alors moi, je suis enseignant, je défendrai l'éducation nationale, publique et laïque, jusqu'au bout. Je l'ai défendue, je la défendrai. Mais on a fait de graves erreurs. Les enseignants, ils aiment la poésie, souvent. Pas tous, d'ailleurs. Il y en a qui ne sont pas à l'aise non plus. C'est une question de formation. Hein. Mais les moyens pour la faire vivre ne sont pas les bons. Et ils créent ces mauvaises représentations dont je parlais. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, le poème, c'est quelque chose d'un peu bizarre, biscornu, lointain, qui est l'objet d'un savoir. Il faudrait être savant, il faudrait avoir été bon en lettres ou en français pour avoir droit au poème. Et ça, c'est le pire des malentendus. Ça n'a rien à voir avec une maîtrise du français, d'être bon en lettres. On peut être un grand mathématicien comme Jacques Roubaud et être un des meilleurs poètes d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et Blaise Pascal était un poète autant qu'un géomètre, vous le savez. Donc rien à voir avec tout ça, rien à voir avec un savoir des formes littéraires, etc. Donc il y a d'abord ce premier problème-là qui est contre lequel, pour ma part, j'essaie de me battre à l'intérieur de l'éducation, puisque j'ai, par exemple, l'explication de texte, je ne la conteste pas forcément comme exercice. Je dis, c'est dans son principe, elle remplace une relation libre, intime, personnelle, subjective, j'allais dire libertaire, sauvage, anarchique, au poème. C'est ça qui devrait être l'amont de tout, n'est-ce pas ? Le commentaire après. Le commentaire ne peut pas tenir lieu de lecture. Vous savez, tous les poètes le disent. Yves Bonnefoy, qui est notre plus grand poète, qui pouvait avoir le prix Nobel, d'ailleurs, on en parle tous les ans, mais Yves Bonnefoy, qui est notre plus grand poète vivant, il dit ceci, le lecteur de poèmes, vous donc, hein, le lecteur de poèmes n'analyse pas. Il fait le serment à l'auteur, son proche, de demeurer dans l'intense. Vous voyez, on a, en une phrase, on a tout concentré la question qui nous occupe. Le lecteur de poèmes n'analyse pas, il fait le serment au poète, à l'auteur, son proche, de demeurer dans l'intense. Ce dont il s'agit, vous voyez bien, c'est de proximité, de fraternité entre une parole et celui qui la reçoit, d'abord, et d'intensité. Ce qu'il s'agit de vivre, c'est une intensité. C'est ce que j'essayais de vous dire au début, n'est-ce pas ? L'analyse, après. Mais on ne commence pas par analyser. Mais vous savez, même Gilles Deleuze, qui est un des grands philosophes et penseurs de la modernité, de la grande modernité, il le disait. Il le disait pour la poésie, et il le disait pour toute littérature. Il disait, c'est du type branchement électrique. Vous voyez ? C'est la même chose. C'est du type branchement électrique. Et combien de poètes disent la même chose ? J'en ai fait toute une... Dans ce fameux article que j'avais écrit qui s'intitulait « Il y a une vie avant l'explication de texte », et j'avais fait une sorte de petite anthologie de citations de poètes qui disaient « Arrêtez avec le commentaire, l'explication, c'est pas là que ça se passe, n'est-ce pas ? Il s'agit d'abord, en lisant, de vivre en poète. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là que je vais essayer d'éclaircir les choses. Mais voyez, les représentations, il y a ça d'abord, il y en a d'autres. Je signale les quelques représentations qui font obstacle, ce qui nous éloigne du poème, ce qui nous interdit d'être à l'aise, d'y aller spontanément. L'autre représentation du poème, elle tient en fait au texte qu'on a lu. Parce qu'on se fait une idée des choses à partir de l'expérience qu'on en a, vous savez bien. C'est-à-dire que si vous rencontrez très peu de Russes, dans votre vie, vous n'aurez qu'une idée assez fausse de ce qu'est la Russie et de l'univers que porte la Russie, n'est-ce pas ? Et si vous n'en rencontrez qu'un ou deux, aléatoirement, quelques instants, ça ne vous donnera pas une grande idée de la Russie. Bon. Je dis ça pour n'importe quoi, c'est vrai. Si vous passez une fois dans les Alpes, vous n'avez pas une idée des Alpes. Or, notre fréquentation de la poésie, la plupart du temps, elle est de cet ordre-là. Elle est tellement parcellaire, tellement fragmentaire, à l'école, au collège et au lycée. Même là, elle n'est qu'une exception, elle est dans les marges de l'enseignement, n'est-ce pas ? Et donc nous avons une idée très fausse parce que nous n'avons rencontré que très peu de poèmes. Vous allez me dire, bon, mais si on a fait de la récitation, d'explication de texte, on a quand même rencontré des poèmes. Oui, je vais vous dire, très facile. Moi j'ai passé des années à étudier ça, très facile, c'est à peu près toujours les mêmes textes. C'est-à-dire, vous avez rencontré dans votre scolarité, entre 50 à 60 poèmes, peut-être. Alors qu'il y a 1000 milliards de poèmes, n'est-ce pas ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Queneau, hein, Raymond Queneau. Il parlait 1000, par plaisanterie, mais il dit 1000 milliards de poèmes. Mais oui, vous comprenez que la poésie, c'est le genre littéraire le plus ancien et le plus universel. Donc celui dont on a le plus d'expressions. Donc qu'est-ce que ce serait 50 poèmes par rapport aux 1000 milliards de poèmes? Vous vous imaginez, c'est rien. Comment voulez-vous que notre idée ne soit pas fausse? C'est exactement ce que je disais de votre voyage d'une fois dans les Alpes, n'est-ce pas? Ou du Russe que vous avez rencontré. Ah ben je connais. Ben non. Et donc on a des idées très fausses sur ce qu'est la poésie. D'autant plus que le corpus scolaire que nous rencontrons, parce qu'à part le monde de l'école, qui rencontre la poésie et où? Ben, j'essaie avec le Printemps des Poètes que justement n'importe qui puisse la rencontrer en dehors. Et de la poésie inattendue. Mais a priori, on parle de ce qui s'est passé et de la situation donnée aujourd'hui. Donc, la plupart des gens, ils rencontrent les poèmes là, et qu'est-ce qu'ils rencontrent? À peu près toujours les mêmes textes. Il y a une sorte de corpus sacré, vous savez, de répertoire. Ça se comprend. Il y a des raisons historiques et sociologiques, et voire idéologiques. Comment s'est constitué le corpus de poèmes proposé aux enfants? Par exemple, à une période, la poésie servait, a servi très longtemps, enseigner la morale, enseigner le sens civique. Oui, oui. Elle a assumé, par exemple, le sens de la patrie. Voilà. Vous trouvez, après la guerre de 14 et après la guerre de 40, dans les poèmes, les trésors poétiques qu'on mettait entre les mains des enfants, les anthologies scolaires qui étaient partout, vous trouvez des poèmes qui sont ou des extraits de poèmes ou des poèmes qui célèbrent la grandeur de la France. Vous voyez ? Et donc, on n'est plus dans la poésie ici. On est dans un détournement, une instrumentalisation du poème à d'autres fins. Je ne dis pas que ces fins, je ne les commande pas. Elles sont toutes discutables, puisque c'est des fins idéologiques ou sociologiques, peu importe. Mais en tout cas, elles étaient comme ça. L'important que je veux dire, c'est qu'on détourne la poésie et que ce n'est pas elle qu'on vise, n'est-ce pas, à faire vivre la poésie. Donc, il y a eu ce champ de restrictions-là, mais il y en a eu un autre, c'est qu'on a privilégié, et ça, vous en êtes tous témoins, on a privilégié dans les poèmes rencontrés, rappelez-vous ce que vous avez appris, ce que vous avez rencontré dans votre vie, dans le milieu scolaire ailleurs, les poètes français, d'abord, qu'est-ce que vous connaissez comme poète étranger? C'est invraisemblable qu'on ne fasse pas entendre aux enfants des poèmes traduits, voire en langue originale, pourquoi pas, mais traduits. Surtout qu'on a aujourd'hui des enfants qui viennent de toutes les cultures du monde. Alors, la poésie française est grande, admirée dans le monde entier, et je la défends, je la promeux. D'ailleurs, je vais à l'étranger sans arrêt, parce qu'on m'invite pour parler de poésie française. Mais, inversement, comment nous, on peut ignorer la poésie étrangère? Et quand même, les 9 dixièmes des Nobel de littérature poète, ce ne sont pas des Français, n'est-ce pas? On a eu Saint John Peirce, quand même. Mais personne ne le lit. Sully Prudhomme, même, vous voyez. Bon. Alors, la question du répertoire, c'est qu'on a privilégié les poètes de la Pléiade. Vous voyez, les poètes de la Pléiade, Ronsard, du Bellay, un peu Baïf, un peu Clément Marot avant, etc. Ces poètes-là. Et puis, les poètes du romantisme, Lamartine, Vigny, etc. Un peu, évidemment, un peu de Mallarmé, mais très peu. Parce que Mallarmé, c'est tellement obscur, n'est-ce pas? Et puis, bon, Baudelaire. Baudelaire, par la force des choses. Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes adorent Baudelaire. Les adolescents adorent Baudelaire. Et pourquoi les adolescents adorent Baudelaire? Tout simplement parce que Baudelaire est gouverné par Eros et Thanatos. Toute Baudelaire, c'est Eros et Thanatos. Or, qu'est-ce que la question d'un adolescent? L'amour et la mort. L'inquiétude métaphysique et l'éveil des sens, la sensualité dans Baudelaire émerveille un jeune. Combien de poètes vous diront qu'ils lisaient Baudelaire, tous, ils sont passés par Baudelaire et vous le lisez en cachette, etc., n'est-ce pas? Et il y a une force de percussion de Baudelaire qui, justement, dépasse aussi les explications de texte, les commentaires, etc. Donc, il y a un phénomène Baudelaire, c'est sans doute, mais après, bon, on a Verlaine, vous voyez, je vais citer Baudelaire, Verlaine, grand poète, Rimbaud, évidemment, on est d'accord. Après, les poètes du Parnasse, un petit peu, hein, Théodore de Banville, mais j'aime ça, Théophile Gautier, et après, oui, j'en ai pas cité beaucoup de poètes. Cela, je suis sûr que tout le monde en a eu un petit peu l'écho. Je pourrais même citer les poèmes que vous connaissiez parce qu'ils sont dans les anthologies. Ouais, heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. Mignonne, allons voir si la rose. Demain dès l'aube, alors blanchit la campagne. Voilà, on a ce corpus de textes en tête. C'est ça qui fonde nos représentations de la poésie. Et je vous dis, après, on arrive au XXe siècle. Au XXe siècle, qu'est-ce qu'on a? Un peu d'Apollinaire, je vous en ai parlé, j'en ai dit un tout à l'heure. Mais moi, si je regarde le corpus scolaire, c'est très, très peu, c'est zone, hein, à la fin, tu es là de ce monde ancien, vous voyez, peut-être. Et quoi, sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? Le pont Mirabeau, magnifique poème, évidemment, d'abord, mais qui n'est pas ce qui est le plus représentatif de la poésie d'Apollinaire, hein, puisque c'est du néo-romantisme, alors qu'Apollinaire est le fondateur de la poésie moderne. Le grand, celui qui fait intervenir après Rimbaud, une sorte de synthèse entre toutes les fractures du XIXe siècle et ce qui arrive, le monde à venir. Bon, donc, voilà, après, il y a Prévert, voilà, on pourra en citer quelques-uns, un ou deux des poèmes d'Aragon qui ont trait à la guerre, donc encore raison idéologique, hein, La Rose et le Réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas, etc. Mais Aragon est un immense poète, comme Hugo, on en connaît deux, trois poèmes. Et puis un peu d'Éluard, peut-être, voilà, au lycée. Mais vous savez, là-dessus, quand on va voir au fond des choses, et quand on voit ce qui est vraiment présent, vous savez, quand Paul Éluard, c'était Capitale de la douleur, je crois, a été mis au programme du bac de français, il y a une douzaine d'années, je crois. Il a été mis au programme du bac de français, un des plus grands poètes du XXe siècle. Ça a fait hurler, ça a été un tollé. Oui, on en a parlé même dans la presse. La plupart des enseignants disaient, mais c'est pas possible, on peut pas enseigner ça, c'est pas de la poésie, ou des enseignants de lettres, formant pour le bac, n'est-ce pas? Ou disant, je vous jure que c'est vrai. Bah, je suis bien placé pour vous le dire. Et certains disant, de toute façon, on ne peut pas commenter ça, on ne peut pas expliquer ça, etc. Donc, vous voyez, c'est pour dire que les limites, dans le corpus scolaire, on les trouve très vite. Moi, ce que je veux vous dire en tout ça, c'est quand je suis en train d'énumérer toutes les représentations qui nous bloquent devant la poésie, il y a celle-là très forte qui est liée au très petit nombre de poèmes que nous avons rencontrés et qui fait que nous faisons inférence de ce qu'est la poésie à travers ça. Et alors forcément, comme j'ai dit, on a privilégié surtout la Pléiade et le romantisme, on a privilégié surtout une poésie qu'on dit classique. Vous savez, dans le classicisme, il y a bien des modernités, mais enfin bon. On a ancré dans la tête des gens que le poème, c'est l'état d'âme, le sentiment, vous savez, les penchements romantiques. On a, et même Mignonne, allons voir si la rose, sentiment amoureux, délicat, etc. Mais est-ce qu'on n'a jamais lu dans les écoles des poèmes politiques de Ronsard? Jamais. Il a écrit beaucoup plus de poèmes politiques que de poèmes d'amour à Hélène. Vous savez, des milliers de vers sur les guerres de religion. On pourra en lire des extraits qui sont fabuleux, qui sont d'ailleurs des condamnations de la violence et du fanatisme, formidable. Mais on ignore ça. Donc, on s'est dit que la poésie, c'était l'épanchement sentimental, une sorte de célébration de la douceur de vivre et du bon sentiment. Voilà. Et puis que c'était une beauté formelle, à cause de la prégnance du rythme régulier et harmonieux, notamment de la période classique, La Fontaine, évidemment, mais aussi de la période du XIXe siècle, du romantisme, etc. L'alexandrin, l'octosyllabe, le sonnet, forme canonique, et qu'on retrouve dans tous les corpus proposés aux enfants. Donc, on se fait une idée de ça. Mais il y en a très... Alors, là-dessus, on est devant un autre... Non, mais vous avez raison de poser la question. Des femmes poètes, dans le corpus scolaire, il n'y en a quasiment pas, ce qui en dit long du parti pris idéologique de ceux qui font le corpus. Et dans leur esprit, il n'y a pas de poète femme. Il y a Louise Labbé, vous voyez, La Belle Cordière de Lyon. Et après, Marceline Desbordes-Valmore pour un poème, hein, le fameux poème, là j'ai oublié un très très beau poème. Marceline Desbordes-Valmore, qui est une des plus grandes poètes du XIXe siècle, plus grande, à l'égal de Hugo ou de Lamartine, et qui l'a dit, on l'avait complètement ignoré, on en étudie un poème à l'école. Celui qui a dit que c'était une immense poète et qu'elle devrait être connue à l'égal de Lamartine ou d'Hugo, c'est Louis Aragon, qui l'a placé très très haut. Mais à part lui, personne n'a dit. Et si je parle de Desbordes-Valmore partout dans la rue auprès de gens personne ne sait son nom même, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de femmes poètes qui ont été ignorées, oubliées, méconnues, marginalisées. Moi je me rappelle avoir donné une année comme thématique au Printemps des Poètes, couleur femme, pour justement explorer la poésie oubliée des femmes. Ah, il y en a beaucoup, hein, de Sappho à Marie-Noël au, 19, au 20e siècle. Enfin, il y a beaucoup de magnifiques. Louise Michel, vous savez, était poète. On en parle pour aller au Panthéon comme femme d'engagement politique, mais c'était une magnifique poète et qui écrivait des poèmes engagés, de la, après tout, comme Hugo en a écrit. Et pas du tout maladroit, n'est-ce pas? Donc, on ignore ça pour des raisons, encore une fois, idéologiques, bien sûr. Donc, la poésie des femmes a été... Mais on pourrait dire bien d'autres choses de... Je pourrais dire de cette aseptisation du corpus proposé. Bien sûr, les poèmes que vous avez rencontrés, vous et les jeunes en général depuis 130 ans à l'école publique, sont de grands poèmes, la plupart du temps. C'est sûr, de grands poètes, c'est sûr. Mais c'est trop restreint. Et dans des obsessions formelles tellement réduites que tout le monde se fait une idée, pour en finir avec cette histoire-là, que le poème, c'est une charmante chose sympathique et sentimentale, écrite en vers qui sonnant et trébuchant, n'est-ce pas ? En vers qui riment, qui font une belle musique à l'oreille et qui rappellent une harmonie douce dont on serait privé. Ouais, ben c'est pas ça la poésie. Ça peut être un moment de la poésie. Mais c'est comme, je vous l'ai dit, un coup d'œil sur une montagne des Alpes à travers le TGV, ça vous donne qu'une idée des Alpes. Et c'est la même chose. Bien sûr qu'on peut trouver des beaux poèmes de d'épanchement sentimental en alexandrin rimé, de belle harmonie, et qui nous touchent, qui nous émeuvent. Ça existe. Mais ça n'est pas le tout de la poésie. Vous comprenez, je vous ai dit tout à l'heure que la poésie, c'est 1 000 milliards de poèmes. Il y en a depuis tous les temps. Les premiers textes écrits qui nous soient parvenus sur les tablettes de Sumer, vous savez, les tablettes en argile de Sumer, qu'on a découvertes au XIXe siècle et qu'on a décryptées assez récemment, il y a quelques dizaines d'années, elles portent quoi? Elles datent donc à peu près de 5000 ans. Ce sont les premiers vestiges écrits vraiment qui nous parviennent. Donc, vous savez, c'est très, très, très ancien. Sumer, les premières civilisations. 5000, 6000 ans. Qu'est-ce qu'elles portent? Deux choses décrites. Soit des contes, bon, contes de commerce, de troc, contes de bestiaux, machin comme ça. L'homme inscrit dans, ici, déjà, la mémoire comme un huissier, n'est-ce pas, de ses échanges commerciaux, de ses échanges pragmatiques, on va dire, n'est-ce pas? Et l'autre chose, exclusivement de la poésie, en vers. Alors, il n'y a pas de la rime, parce que c'est pas... Mais il y a tout à fait plein de ce qu'on appellerait des tropes, des faits poétiques décrits par l'université, qu'on trouve déjà avant tout le monde. Ce qu'on appelle des anaphores, par exemple, ça, c'est très typique. Vous lisez ça, c'est tout à fait étonnant, les hymnes à Inanna, etc. Et c'est tout à fait étonnant, parce que vous y trouvez des effets de forme qu'on retrouve chez Peggy, par exemple, vous voyez ? Sans parler chez Corneille ou Racine. Donc, on a là des textes poétiques, bien sûr à fonction religieuse, mais pas la religion telle que nous la connaissons, hein, un rapport primitif et primordial à l'espace et au grand univers, n'est-ce pas, dénommé par des divinités. C'est une sorte de relation première et fondatrice à ce qui nous entoure. Mais la fonction est religieuse ici au sens de sacré premier, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, mais c'est des poèmes. C'est des poèmes. On n'a pas de récit, on n'a pas de... Ou si, s'il y a du récit, c'est du récit en vers. Et qui vaut autant pour autre chose que ce qu'il raconte, n'est-ce pas, que pour ce qu'il raconte. Au sens premier, que le récit lui-même. C'est-à-dire sa fonction symbolique, métaphorique. C'est-à-dire que ça n'est pas que du pur récit. Voilà, donc, la poésie est la plus ancienne des manifestations littéraires humaines, n'est-ce pas? Et bien sûr, toutes les cultures, on le sait, il n'y en a pas une au monde, dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud, qui n'ait pas sa poésie orale. Ce qu'on a par écrit n'est que le vestige de ce qui se faisait antérieurement. Ça veut dire qu'une des premières paroles humaines a été une parole poétique. Il y a eu la parole pragmatique, forcément, on l'imagine, n'est-ce pas ? Fais gaffe au mammouth ou allume le feu. Enfin, on a dû le dire, forcément. Avec les embryons de langage qu'on avait. Mais je pense que absolument simultanément, je pense, on en a des preuves au fond, n'est-ce pas ? Il y avait une autre parole. Cette autre parole qui déborde la dénomination du réel, qui est l'enjeu premier et l'origine première de la poésie, et dont l'homme a toujours eu besoin, puisqu'on le trouve partout. Chez les chamans, les griots, J'étais avec un ami tchadien, l'autre jour, on parlait ensemble devant un public comme ça. Il dit, mais la poésie pour nous est première, mais elle a toujours existé. elle se transmettait par la parole, pas seulement des griots et des chamans, par tout un tas de vecteurs oraux, comme ça. Donc, nous avons une idée restreinte de la poésie parce que nous ignorons ce trésor universel. Or, si on le savait, si on le fréquentait un tout petit peu, on verrait que la poésie en alexandrin ou en octosyllabe rimé, c'est une toute petite caractéristique de la poésie. Parce que la plupart du temps, ça a d'abord été du verset, du vers pas forcément rimé. Qu'est-ce que signifie la rime dans certaines langues, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas forcément sur notre logique à nous, n'est-ce pas ? Souvent, d'ailleurs, avant la rime, il y a eu l'assonance, qui est beaucoup plus libre, qui marque effectivement des retours de son, ouais, mais une scansion plus qu'une musique. C'est pas parce que quand on parle de musique avec la poésie, on se trompe. Oui, je sais que je choque un peu en disant ça, mais la poésie, ce n'est pas la musique des mots. Ou alors, si c'est la musique des mots, si on entend musique dans son sens le plus vrai, le plus large, qu'est-ce que c'est que la première musique ? C'est ça, c'est la percussion. Vous voyez, c'est-à-dire que la musique, oui, il y en a dans le poème. Et dans tous les poèmes, je ne parle pas de la poésie d'aujourd'hui, je parle de toutes les poésies. Vous voyez, et ça peut vous surprendre, mais parce que vous ne connaissez pas, peut-être, c'est tout. Mais la poésie a toujours été une extraordinaire invention formelle. Donc il y a eu le verset, il y a eu des vers plus ou moins courts, il y a eu des vers rimés, des vers pas rimés, il y a eu des vers dont le rythme signifiait le vers, n'est-ce pas ? Le rythme seulement, pas besoin d'effets autres sonores, etc. La poésie n'a cessé de métamorphoser. Par exemple, du temps des pré-socratiques, vous voyez, dans la lointaine Grèce, on a trouvé, vous savez, des aphorismes, c'est-à-dire ces poèmes qui sont un vers. Vous voyez ? Vous avez entendu parler de ça, peut-être. Il y a des livres qui ont été faits sur la poésie pré-socratique. La plupart du temps, du fragment. Un aphorisme, c'est-à-dire un vers tout seul, une phrase toute seule, mais tellement dense et tellement intense que ça en dit plus que trois pages. C'est bien sûr le fonctionnement de la poésie. Donc, vous voyez, je pourrais continuer, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, continuer pour dire à quel point le poème est différent. Vous avez des sirandanes sur l'île Maurice que le Clésio a récupéré. Vous avez des proverbes, c'est ancien comme le monde, et ça a toujours une fonction poétique, le proverbe, puisque c'est une métaphore. Vous avez évidemment des grandes élégies de plus de milliers de vers. Vous avez la chanson de geste, et vous avez à côté de ça le haïku japonais. C'est aussi ancien. Vous imaginez le haïku japonais de 3 vers et l'élégie de 200 vers. C'est ça, on appelle ça poème. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si on regarde la réalité des choses, la poésie, c'est une extraordinaire divertissement formel, une source de surprise permanente dans la langue. Et c'est même ça qui la rend précieuse. Donc la renvoyer simplement à telle ou telle forme parce qu'elle nous plaît ou qu'on y est habitué, nous, dans notre culture, c'est triste, n'est-ce pas ? C'est s'enfermer, c'est perdre l'essentiel et c'est perdre une jubilation de découverte et d'invention. Donc, bien sûr, encore une fois, je ne fais pas le procès de ce que, par ailleurs, j'adore. Moi, j'adore la poésie du romantique. Je crois avoir relu en entier bien des livres de Hugo, que beaucoup de gens qui mettent Hugo à leur boutonnière, vous savez, n'ont jamais lu ou ne lisent pas. Ils se souviennent de 3-4 poèmes de Hugo à l'école. Moi je lis les poètes d'aujourd'hui et je lis Hugo parce que j'adore, c'est magnifique évidemment, mais vous comprenez que la réalité de la poésie ne peut pas être réduite à telle grande œuvre, à telle particularité poétique de telle culture. Donc, tout ça pour dire que notre idée fausse sur la forme poétique fait que quand on se trouve dans un truc qui ne ressemble pas à ces poèmes qu'on a appris à l'école de Maurice Carême, de Hugo ou de je ne sais pas quoi, de Lucie de la rue Mardrus, vous voyez, le corpus de texte Banville, etc., qui sont presque toujours des poèmes rivés et rimés et comptés, en rime croisée ou embrassée, voilà, presque toujours. Alors quand on tombe dans un objet bizarre, qui ne ressemble pas à ça, on dit que ce n'est pas de la poésie. Et on ne sait pas le lire, puisqu'on parle d'être lecteur. On ne sait pas lire parce que c'est un objet inconnu. Et on ne voudrait savoir lire que les objets connus. Mais savoir lire, c'est tout l'inverse. C'est être capable de se débrouiller avec l'inconnu et pas avec le connu. Si vous ne savez lire que ce que vous savez lire, vous ne savez pas lire. C'est-à-dire, le bon lecteur, le vrai lecteur, pas seulement des textes, mais du monde, c'est celui qui sait lire l'inconnu, ce qu'il n'avait pas encore lu. ce qu'il n'avait pas encore entendu, ce qu'il n'avait pas encore rencontré. Si vous êtes capable de ça, vous êtes un être qui grandit, un être en devenir, un être avec une ouverture maximale au monde, n'est-ce pas ? Donc, je reviens tous à mes fameuses représentations négatives qui nous font fuir la poésie. Vous voyez, j'en ai proposé un certain nombre. Il y a cette idée très forte chez nous que si ça rime pas, c'est pas du poème. Voilà. Alors je ferai remarquer, j'ai dit aux enfants, parce que combien de fois j'ai parlé de ce dont je vous parle à vous avec des enfants. Les enfants posent plein de questions, c'est formidable. Je me dis, vous savez, hein, les enfants, si on parle poésie, ils disent, on leur pose la question, qu'est-ce que c'est la poésie ? Ils disent, c'est ce qui rime. Ça rime. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'il y a plein de poésies qui ne riment pas. D'ailleurs, je leur dis, vous savez, il peut y avoir de la rime, mes enfants. Moi, je peux vous donner des choses, vous inventer, vous écrire très facilement, à longueur de journée, des choses qui riment, il n'y a pas une once de poésie. Hein. Bah, par exemple, tonton Gaston, en pantalon marron, joue au ballon sur le gazon. Moi, je dis ça à des enfants de... Je vous jure, je l'ai fait en CP. Je dis, il y a la poésie là-dedans. Oh ben non, c'est un peu marrant, mais il n'y a pas de poésie. Tandis que si je dis, j'ai cueilli ce brin de bruyère, l'amour est mort, l'automne est mort, te souviens-t'en. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est mort, te souviens-t'en, même sans faire d'effet. Hein. Hein. Et il y a encore une rime, hein, des effets sonores dans ce poème, mais on peut en dire bien d'autres. Par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le voleur n'a oublié qu'une seule chose, la lune à la fenêtre. Les enfants, ils ne se trompent pas, ils savent que c'est de la poésie. Et ça ne rime pas. Mais je leur dis d'ailleurs, j'ai fait le jeu avec eux. Je leur dis des choses rimées comme ça, on met des rimes. Bien sûr, ces rimes, c'est marrant. Mais marrant, ça ne veut pas dire que c'est de la poésie. Et vous leur dites une chose comme ça, dans laquelle il y a une forte intensité. Pensez à ce critère d'intensité. Tout d'un coup, les enfants, ils en ont une perception immédiate. Vous voyez ? Parce que qu'est-ce que c'est qui va définir la poésie ? Alors, en dehors de toutes ces représentations, il faut vous en dire, mais alors qu'est-ce que c'est que la poésie ? Bon, mais même les poètes, ils se posent la question. Et aujourd'hui encore, on n'arrête pas à se demander, mais qu'est-ce que c'est que la poésie ? Puis c'est si divers, c'est si multiple. Il y a des poèmes chez les Inuits, vous savez, chez les Indiens peaux rouges. Ça a été publié en France, on le trouve en librairie aujourd'hui. Les poèmes, c'est d'ailleurs Roubaud et d'autres qui ont rassemblé ça. Des poèmes des Indiens Sioux, Apaches, etc. Oui, des Inuits, des Esquimaux, les peuples Ainu aux confins du Japon, tout ça est disponible. Alors qu'est-ce qui fait dans cette grande méli-mélo de forme du coup ? Qu'est-ce qui fait le poème ? La question, elle est passionnante. Et moi, j'ai dit, d'ailleurs, à des enseignants, au lieu de dire la poésie, c'est ceci ou c'est cela, vous vous tromperez toujours. Parce que tout poème dément l'autre. La bonne question, et la plus passionnante, c'est de se demander toujours, mais enfin, qu'est-ce que c'est que la poésie ? De n'en avoir jamais fini avec la question. On sait qu'elle existe. Vous savez, c'est comme Saint Augustin qui disait, quand on le questionnait à propos du temps, qu'est-ce que c'est le temps ? Alors il disait, Saint Augustin, littéralement, quand on ne me pose pas la question, je sais parfaitement. Dès qu'on me pose la question, je ne sais plus. Et c'est un peu la même chose pour la poésie, parce qu'elle déborde, elle est universelle, on la trouve partout, mais elle déborde ses formes canoniques. Bien sûr qu'on la trouve de façon privilégiée dans ce qu'on appelle le poème. Dans toutes les cultures, il y a du poème. C'est-à-dire cet effet de la langue, tout d'un coup, où on entend avant de lire, et pour des enfants petits, c'est ça qui est essentiel, c'est le critère premier, où on entend que ce qui se dit ne correspond à aucune autre prise de parole. Et ça, c'est intuitif, et c'est immédiat. Il y a quelque chose qui fait qu'à l'oreille, et nous avons tous une oreille intérieure pour ça, je ne parle pas de celle-là, à l'oreille intérieure, ce qui est poème, tout d'un coup, on l'identifie. Oh, on ne sait peut-être pas que c'est de la poésie, on ne sait peut-être pas le nommer, mais on sent que ce n'est pas comme le reste. Vous savez, la langue, elle a 1000 usages et 1000 avatars. Et il y a bien sûr la langue quotidienne de celle de « fais gaffe au mammouth », c'est-à-dire « fais attention, traverse pas comme ça » ou « ouvre la fenêtre », etc. Cette langue-là et cet effet de la langue-là, il est essentiel, il est commun, il nous permet de vivre ensemble. Après, il y a d'autres effets de la langue, la description savante, conceptuelle, n'est-ce pas ? Là, c'est la philosophie, c'est les mathématiques, etc. Des langues conceptuelles, qui essaient d'enfermer le réel et de le décrire dans des concepts, des abstractions. Et puis, vous avez quoi encore comme langue ? essentiellement la langue du récit, la langue qui raconte, la fable, le roman, mais le roman c'est récent, vous savez, hein. Le roman c'est le 19e siècle. Et il y a encore des pays, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas de roman. Je pense par exemple dans le monde arabe. Hein. D'ailleurs, dans le monde arabe, le premier genre aujourd'hui c'est la poésie. Le genre le plus respecté, le plus partagé, le plus reconnu par tous, c'est la poésie. Vous allez dans des pays, au Maroc par exemple, vous avez des pages entières de poésie dans des quotidiens, genre chez nous, Libé ou le Parisien. Des quotidiens populaires même. Des pages de poésie. Ce n'est pas forcément de la bonne poésie, mais c'est pour dire la présence de la poésie. Bon. Pardon ? Ah, ben, vous en connaissez déjà, vous voyez. Justement, là, on pourra parler de l'objet de la poésie. Hein. Tout ça pour dire que, à côté de toutes ces langues que j'ai essayé de nommer, il y en a une autre qui ne raconte pas, qui ne dit pas le réel de façon objective, qui n'est pas dans le conceptuel et l'abstraction. Et cette autre langue, c'est ce truc qu'on appelle poème. Et c'est une langue de la suggestion, de l'intuition, de l'allusion, une langue qui a cette particularité qu'on retrouve dans le récit littéraire, dans les albums pour enfants, etc., quand ils ont une dimension poétique. Quand ils ont une dimension poétique. Ils ne l'ont pas tous. Cette autre langue, elle a la particularité très simple de dire plus que ce qu'elle dit. C'est-à-dire, il y a un grand poète, Odysseus Elitis, prix Nobel de littérature, grand poète grec. Vous savez, on doit beaucoup aux Grecs. Hein. On parle de leurs dettes financières, mais nous, on doit tout, l'Europe doit tout aux Grecs. Ne serait-ce que le nom d'Europe. Ouais. Et ne serait-ce que le nom de démocratie. Et de plutocratie, d'ailleurs. Donc, on doit tout aux Grecs, mais bon. Alors, Odysseus Elitis, il dit ceci. Quand la montagne dépasse du mot qui la désigne, se trouve un poète. Il y a un poète, pardon. Quand la montagne dépasse du mot qui la désigne, il y a un poète. C'est la meilleure définition de la poésie que je connaisse. En tout cas, c'en est une très pertinente, n'est-ce pas ? Quand la montagne dépasse du mot qui la désigne, il y a un poète. C'est-à-dire quand la langue dit beaucoup plus que ce qu'elle dit littéralement. Et plus elle dit plus que ce qu'elle dit littéralement, plus elle déborde la littéralité, plus tout d'un coup on est dans la poésie. Et c'est là que tout d'un coup on est inquiet, parce que quand un mot dit ce qu'il a à dire, ça va, ça nous rassure. On est dans la dénomination ordinaire d'une chaise, c'est une chaise, une table, c'est une table. Ok, mais quand j'utilise un mot pour dire ce qu'il ne dit pas ordinairement, ce qu'il devrait dire, que les dictionnaires nous disent ce qu'il devrait dire, tout d'un coup je dis autre chose avec ça, ah, le problème c'est quoi ? C'est le problème de la lecture. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, le poète, vous savez, s'il ne dit pas ce que devrait dire le mot. Si le mot sable ne dit pas seulement le sable, mais qu'il dit beaucoup plus que le sable. Et quoi ? L'enfouissement ? La brûlure sous le pied ? La blancheur ? La sécheresse ? La douceur ? Eh, décidez. Eh bien, vous avez compris, si vous comprenez ça, ce que c'est que lire un poème. Lire un poème, c'est faire apparaître tout ça. C'est comprendre que le poète veut dire tout ça et choisir, vous, subjectivement, non pas en attendant que quelqu'un vous dise « Ah ben non, tout c'est possible, attends, ah, c'est la blancheur. » Non. Ce que dit le sable quand dans le poème où le poète emploie le mot sable, c'est vous qui le savez, c'est vous qui êtes lecteur. Et c'est d'ailleurs la caractéristique foncière de la lecture de la poésie. C'est le seul texte au monde où vous êtes libre. Vous êtes libre du sens. C'est vous qui en décidez. C'est vous qui choisissez ce que ça doit vouloir dire pour vous. Vous comprenez que ça doit vouloir dire pour vous parce que vous en avez besoin que ça dise ça. Parce que ça éclaire votre relation au monde. Parce que ça éclaire votre propre obscurité. Parce que ça vous donne un argument pour mieux vous concilier avec les êtres ou les choses. C'est utile. La poésie est utile, vous savez. Croyez-moi, la poésie est utile. Mais elle est utile à autre chose que le CAC 40, c'est tout. Oui, et elle est utile à ça qui est essentiel. J'allais dire bâtir notre être pleinement, le compléter sans cesse, car nous sommes sans arrêt incomplets, inachevés, n'est-ce pas ? Et nous passons notre vie à être inachevés, à nous compléter. C'est pour ça qu'à 90 ans, on peut vivre pleinement, par bonheur, si on est dans cette idée-là du monde, n'est-ce pas ? C'est qu'on n'a jamais fini d'être achevé, d'être un être humain achevé. D'ailleurs, l'humanité ne fait que commencer, l'humanité n'est pas advenue encore. Elle est inhumaine, on n'arrête pas de le dire. Elle n'arrête pas de se déshumaniser ou de s'inhumaniser à longueur de journée. Donc, nous avons besoin de cet effort d'être pour être plus humain. Et c'est le poème qui nous aide à ça, individuellement et collectivement. Bon, vous voyez, je m'éloigne, mais je reviens à mes moutons. Si on bouscule toutes les idées reçues sur la poésie, on s'aperçoit que c'est un immense continent de formes insolites et inattendues dans la langue. On s'aperçoit que ça dit ce que rien d'autre ne dit, et que ça nous donne une liberté qu'on n'avait jamais éprouvée dans la langue. Or, c'est peut-être ce qui est essentiel dans l'enjeu de la poésie pour des enfants. Je ne cesse de vous parler en pensant aux enfants que vous rencontrez, puisque moi je les rencontre sans arrêt. Vous savez, j'ai fait avec les moyennes sections, les petites sections même, une fois, jusqu'à l'université, je n'ai pas arrêté. Donc j'ai la pratique, j'essaie leurs questions, etc. Mais qu'est-ce qui est essentiel dans la poésie ? C'est que très petit, même au berceau, j'ai dit qu'on lise des poèmes aux enfants au berceau, dès la naissance. Je ne blague pas. Des poèmes, pas seulement des comptines chantonnantes. Bien sûr, je n'ai rien contre la comptine, mais des poèmes. Pourquoi ? Parce que justement, ils entendent, l'oreille intérieure entend, et ils se familiarisent avec cette autre langue dont le fait que nous soyons dépourvus en grandissant amoindrit le monde, parce que ça nous déshumanise, justement, n'est-ce pas ? Donc très tôt, l'enfant, habituez-le à la voix du poème, c'est-à-dire cette chose qui ne parle pas comme le reste. Un enfant petit, il entend sa mère lui parler, son père lui parler, on lui raconte des histoires, on lui désigne un objet. On dit ça, c'est le chat, ça c'est la lumière, ou c'est le vent, je ne sais pas, n'est-ce pas ? Donc on lui apprend à dénommer le monde essentiel. Mais qu'il entende très tôt cette autre parole de l'homme, oui, l'être humain peut parler aussi pour ne rien dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ne rien dire d'immédiatement concret, efficace, pratique. Une parole qui ne nie pas les autres, il nous faut la parole pratique, évidemment. Sinon, comment je serais arrivé ici, moi, et vous, n'est-ce pas ? Donc, mais il y a cette autre parole essentielle, cruciale, dont on fait l'économie. Donc, il faut que très tôt l'enfant ait la familiarité à l'oreille, qu'il soit familier avec la langue inconnue. Et ça lui apprend quoi ? Je parlais de l'enjeu premier. Ça lui apprend qu'il y a la langue de tous les jours, la langue de la loi, au fond, la loi de vivre. On dit chaussures, on dit fais attention, traverse pas. Il y a la loi qui nous permet de vivre en société. Ça existe, cette langue, et elle est indispensable. Mais il faut qu'il sache qu'une autre langue est possible. Et que cette autre langue, au lieu de dénommer le réel et de l'enfermer dans des définitions closes, la table est la table, les cheveux sont noirs ou bleus, ouais, on peut être bleu maintenant, vous savez, avec le tenture. Ouais, au lieu de dire les choses comme ça dans la dimension, dit ce qui dépasse, c'est la montagne, etc. Ce qui dépasse ça. Cette autre langue où tout d'un coup le monde s'illimite. La réalité est indéfinie. Je fais exprès de dire indéfinie, n'est-ce pas ? Puisqu'il y avait le mot d'ordinaire, il définit. Il met des fins, des limites. Et indispensable, mais il nous faut cette langue qui illimite, qui indéfinit, qui dit que le sable n'est pas que le sable, que le chaud ou le froid, c'est pas si simple. Par exemple, en poésie, on peut dire un soleil froid. Ouais, c'est absurde du point de vue de la loi grammaticale, la loi lexicale. Ce qu'un professeur appellerait une impropriété de terme, n'est-ce pas ? Mais heureusement qu'il y a des poètes pour faire des impropriétés de termes, pour transgresser, pour faire infraction dans la langue. Parce qu'en faisant cette infraction ou cette effraction, il libère la langue. Parce que si on n'a pas les poètes, on ne peut pas dire des choses qui sont interdites par la loi lexicale, grammaticale, etc. Or, bien sûr, moi qui étais enseignant et prof de lettres, vous imaginez, j'ai complètement assumé ma mission qui était d'enseigner la norme. Mais j'ai assumé cette autre mission que je me suis donnée à moi-même, mais dont j'essaie de faire en sorte que l'éducation nationale globalement la reconnaissent, c'est autoriser, même encourager les enfants à la transgression de la norme. C'est-à-dire, au même moment où je leur apprends la norme, je suis prof de grammaire, je leur dis, on dit comme ça et pas comme ça. D'accord ? Si tu veux te faire comprendre immédiatement, si tu veux être efficace, l'énoncer, sa pensée clairement, etc. Il faut faire comme ci et comme ça. Il y a un certain nombre de lois, d'usages qui nous sont hérités par les siècles et qui sont ce qu'on appelle le génie de la langue française. Oui, j'assume. Sauf qu'il faut, dans le même temps, assumer la transmission du contraire, de l'opposé, l'antidote, si vous voulez. L'antidote. Sinon, nous avons tous une langue conforme, consensuelle, conventionnelle. On est dans la convention, le consensus et la conformité. Et on dit le monde de façon conforme. Où est notre liberté de dire le monde ? Libéré de ces consensus, libéré des stéréotypes, des lieux communs, des préjugés. Où est née notre liberté à ce moment-là ? Et c'est la poésie qui nous enseigne très jeune. Je dis dès le berceau, il faudrait qu'il y ait une autre langue, qu'on a un grand champ de liberté, que la langue n'est pas seulement la loi, qu'elle est aussi le lieu d'ouverture du réel, pas seulement le lieu de clôture du réel. Vous voyez, autant on a une langue dénominateur commun qui nous ramène à penser tous que devant une chaise, on a tous le mot chaise pour la reconnaître, autant il nous faut une autre langue qui nous fasse dire que la chaise, c'est pas que la chaise. D'ailleurs, la chaise, c'est pas que la chaise, puisque la chaise, c'est pas seulement fait pour s'asseoir, on peut monter dessus, non ? On peut jouer avec, en faire un train, vous savez, les enfants. On peut s'en servir comme une arme. On peut faire plein de choses, de détourner la chaise de toutes ses fonctions, de sa fonction première. Donc, si vous voulez, la question, elle est que, comme le disait Georges Bataille, si le langage en nous devenait tout à fait servile, nous n'aurions plus rien d'humain. C'est cette libération du langage qui nous rend aussi notre pleine humanité, c'est-à-dire la liberté d'exprimer le monde à partir de notre expérience et pas de la loi faite ou de l'abstraction du dictionnaire. Donc, la poésie, ça sert à ça. Voilà ce que je crois qu'il fallait ce dont je devais témoigner. À quoi sert la poésie ? Vous voyez, ça sert à ça. Pas enjoliver, pas à faire beau, pas à nous consoler, de quoi ? Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, disait Stieg Dagerman, grand, magnifique texte d'un grand écrivain. Donc, de toute façon, on ne sera jamais consolé, n'est-ce pas ? Mais bien sûr qu'elle peut à un moment parler de déploration, de misère, elle le fait souvent la poésie, et qu'on puisse avoir empathie avec ça. Mais profondément, vous voyez à quoi sert la poésie, à nous enseigner qu'il y a une autre langue, et à enseigner à chacun qu'à travers la langue qu'on lui a apprise, la langue commune, la langue de partage, il est possible d'accéder à une autre langue qui est une autre perception de la réalité. Et là, on dit que la poésie, à ce moment-là, on va le dire, est un instrument de connaissance. Et cet instrument de connaissance nous affronte à l'inconnu, au mystère, à l'au-delà de chaque chose, de la plus triviale des choses, de la plus reconnue et la plus ordinaire des choses, ou des êtres. Et c'est en cela que la poésie est essentielle. Sans poème, sans la langue radicale, j'allais dire un sujet de la poésie, n'est-ce pas ? Sans ça, nous n'avons pas accès aussi vastement, aussi loin qu'on pourrait, à cette autre part du réel. Vous savez ce que disait Paul Éluard ? Oui, il y a un autre monde, mais il est dans ce monde. Et c'est cet autre monde dans le monde que nous livre la poésie. Et la poésie n'est que l'instrument d'exploration de cet autre monde dans le monde. Voilà. Donc la poésie, disait à Mallarmé, c'est quoi ? C'est ce qui nous amène à ressentir, à éprouver, à percevoir l'essence mystérieux de l'existence. Ça, c'est Mallarmé, l'essence mystérieux de l'existence. Profondément, la poésie, c'est ça. Et du coup, vous comprenez qu'écouter le poème, c'est pas seulement être heureux, triste, et puis consolé, etc. C'est beaucoup plus compliqué et plus fort que ça. C'est tout d'un coup nous mettre en prise avec cet au-delà de nous-mêmes, de chacun d'entre nous, même petit, même grand, n'est-ce pas, peu importe. Nous mettre dans l'au-delà de tout réel, de nous faire à éprouver que chaque chose porte en elle un monde. C'est aussi ce que disait Victor Hugo. Chaque homme est un monde, disait Victor Hugo. C'est-à-dire, le poème investit cette autre part du réel qui est absente dans la vie de tous les jours, dont on n'a pas la conscience, dont on ne fait pas l'effort d'aller la prendre en compte, de l'explorer. Pourquoi ? Parce que si je fais cet effort, c'est un effort épuisant. J'allais dire jamais satisfait, parce que la part d'inconnu est immense. Vous voyez ce que je dis, c'est comme l'iceberg. La part d'inconnu est bien plus grande que la part connue dans l'iceberg. Hein ? Eh bien, la réalité, c'est ça, c'est ce que disent les poètes. Ils me disent, la part inconnue du réel est bien plus grande que la part connue du réel. Mais c'est toujours le réel. Et tous les poètes de tous les siècles, de toutes les cultures, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? À nous faire pénétrer la part inconnue du réel. Mais nous la portons en nous. Cet inconnu, nous le portons en nous. Il nous le révèle, donc. C'est pas difficile. Qu'est-ce que disait Rimbaud ? Je est un autre. Ce que la psychanalyse a développé après, n'est-ce pas ? Et en fait, le principe de « je est un autre », c'est le principe de toute poésie. C'est pour nous dire la chose qu'on croyait être simple et délimitée et fixe et clairement compréhensible, elle est mille fois plus mystérieuse. Elle porte un inconnu illimité. Mais c'est complètement encourageant, hein ? C'est une raison d'optimisme et d'espoir. Vous comprenez ? Si vous pensez que la réalité est limitée à ce qu'elle est, que vous, vous êtes limité à ce que vous êtes, à votre identité de surface, aux quelques items qui vous caractérisent, votre nom, votre taille, la couleur de vos cheveux, enfin la carte d'identité, quoi. Est-ce que votre identité est limitée à ça ? Ben, évidemment que non. Votre carte d'identité, elle représente de vous même pas ce que l'iceberg représente de l'inconnu. La pointe émergée de l'iceberg, je veux dire, n'est-ce pas ? C'est rien, c'est un gag, c'est un scandale, mais un scandale à pleurer de rire tellement c'est ridicule. Comment votre identité tiendrait sur une carte ? Il y a combien de milliards d'histoires dans votre vie, de chaque instant, d'émotions vécues, de découvertes, de peurs, de blessures, de joie. C'est ça votre identité. C'est la caresse de la vague, c'est la griffure de l'ortie un jour, c'est un regard qui vous a manqué, c'est un visage inconnu que vous avez croisé. C'est ça votre monde, votre vie, ce que vous êtes pleinement. Et vous êtes, vous savez vous-même, en perpétuel devenir. Et un enfant pareil. Donc nous sommes tellement... Et c'est ça qui est magnifique. La poésie nous reconnaît dans ce que nous sommes vraiment. Une identité profonde, inconnue, mystérieuse. Et toujours, j'allais dire, toujours bouillonnante, effervescente. Toujours en devenir. Donc la poésie, c'est une leçon d'espoir. Et ça définit l'humain comme un devenir perpétuel, comme une chose en mouvement, une métamorphose. Et évidemment, on peut dire « Ah, merde !» Donc, ça veut dire qu'on a affaire à l'inconnu tout le temps. Et on est dans un monde, vous avez remarqué, où l'inconnu, c'est le pire. Moi, je parle de ça comme d'une valeur, les poètes en font toujours l'éloge. La poésie égale l'éloge de l'inconnu. Voilà. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui fait le contraire exact, qui a peur de tout ce qui est inconnu, à tout point de vue. Et du coup, on essaie de nous enfermer dans des conventions, des consensus, des conformités. Les enfants, les jeunes, on les enferme, comme on les a toujours essayé de les enfermer d'ailleurs. Avant, moi, dans ma génération, c'était pareil. On devait avoir les jeans troués, les cheveux longs. Vous voyez, fumer un pétard. C'est aussi une convention, d'une certaine façon, même si c'était une manière de braver l'interdit à un moment. On enferme toujours les jeunes dans des conventions, mais là, plus que jamais, parce que les moyens d'asservissement à des conformités sont plus grands que jamais. Tout simplement. Il n'y en a jamais eu autant. Les moyens de nous contrôler dans des comportements et des pensées. Mais nous en sommes victimes autant que les jeunes. Donc, si vous voulez, on essaie de nous enfermer dans des stéréotypes de comportements, de réactions, des stimuli, vous savez, d'achat, etc., etc. Des modes de pensée, on ne parle pas pour rien de pensée dominante, de pensée unique, etc., etc. C'est à chaque fois, une expression remplace l'autre, mais au bout du compte, c'est ce que ça dit. Le monde dans lequel on est, il tend à nous enfermer tous dans du connu, repérable, parce que le connu repérable, ça ne fait pas peur. Vous avez remarqué ? Simplement. Donc, tout doit être connu, d'où la fameuse psychose de la transparence. Les caméras partout, l'identité complètement réidentifiée sans arrêt, les contrôles, etc. Mais on en est tous victimes, ce n'est pas seulement les marginaux. Vous voyez ? Et du coup, on est dans une société qui est dans une folie comme ça, voilà ce que je vous dis, là, comme en poète, comme je le pense, mais tout poète vous dirait ça. Une société qui enferme, qui limite, qui a peur d'elle-même et qui a peur de l'inconnu. De l'étrange, de l'étranger, évidemment. Mais l'étranger n'étant qu'un symptôme. C'est une figure de l'inconnu. Et comme on a une peur, panique de l'inconnu, vous voyez, on prend des boucs émissaires. Et évidemment, ça explique pourquoi la société dans laquelle nous vivons, occidentale, pas seulement française, occidentale, des pays industrialisés, etc., dans cette peur panique de l'inconnu, elle est complètement apoétique. Vous suivez mon raisonnement ? C'est-à-dire, la poésie, c'est tout l'inverse. Parce que ce que je n'ai pas dit, j'ai parlé de poèmes, de vers, de rimes, etc. Mais ce que je n'ai pas dit, ce à quoi il faut peut-être en venir maintenant, c'est que si on veut définir la poésie, il faut venir secondairement au texte. Le texte n'est que le symptôme aussi, si vous voulez, la représentation, la concrétisation d'autre chose qu'on appelle la poésie. Qui est la poésie? Et cette autre chose, c'est quoi? Eh bien, je vais vous le dire, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, c'est Georges Perros, un des grands poètes de la fin du XXe siècle, français, breton, hein, publié chez Gallimard, un poète tout à fait important, Georges Perros, P-E-2-R-O-S, et il disait ceci: le plus beau poème du monde ne sera jamais qu'un pâle reflet de ce qu'est la poésie. Deux points. Une manière d'être, d'habiter, de s'habiter. Vous voyez que ce qui définit la poésie, c'est une éthique, c'est une morale d'être, c'est un comportement humain, une manière d'être, d'habiter, de s'habiter. Et quelle est cette manière d'être? C'est ce que je vous ai dit avant. Le goût de l'inconnu, l'appétit de l'inconnu, le désir de la métamorphose, ne jamais s'en tenir à ce qui est dit, ne jamais être enfermé. Voilà pourquoi on dit que les poètes sont les gens, les chantres de la liberté. Parce que par essence, la poésie, c'est ce qui libère, ce qui illimite le réel. Ce qui nous dit que dans un caillou, il y a autre chose qu'un caillou. Que derrière un visage, il y a tout un monde qu'on ne connaîtra que dans une longue fréquentation, amicale ou amoureuse. Qu'on ne connaît jamais quelqu'un sur son apparence, mais que bien au-delà de la première apparence, il y a un monde à explorer et qu'on n'explore que, encore une fois, dans l'entretien amoureux ou amical. Et parfois, il nous faut une vie pour connaître, et on ne connaît pas encore, par bonheur. D'ailleurs, quand l'amour s'épuise, c'est simplement ça, n'est-ce pas? C'est qu'on n'a plus le désir de connaître ou qu'on s'est perdu, voilà, peu importe. Et donc, si vous voulez, la poésie, c'est ça. Et c'est à ça qu'on initie les enfants à travers le poème, vous voyez? C'est vraiment tout ça que je vous dis. C'est pour ça que c'est indispensable, c'est essentiel. C'est une autre part de notre existence dont nous pouvons, nous tous ici, prendre la mesure et la transmettre aux enfants. Que très tôt, très jeunes, très petits, ils savent qu'il y a un lieu où ils ont le droit d'être contradictoires, complexes, inattendus, surprenants, que ce n'est pas grave, qu'ils ont droit à l'incertitude, au doute, à l'inquiétude, à l'émerveillement, à l'étonnement. Ils y ont droit puisque d'autres le disent, les poètes. Tout poème est ça, au fond, l'expression d'un étonnement, d'un émerveillement, d'une angoisse, d'une inquiétude. Oui, il y a du sentiment, mais ce n'est pas du sentiment gentillet. Ce n'est pas une vague tristesse amoureuse ou... C'est toujours des sentiments graves, profonds, mais vraiment critiques. Les poètes, oui, parlent de sentiments, mais ceux qui nous constituent, nous, en tant qu'êtres humains, enfants ou pas, hein, on ne va pas dire les enfants, il faut les protéger. Un enfant, il vous regarde droit dans les yeux et vous dit qu'est-ce que c'est la mort. Et il le sait, la mort, il la voit à la télé, partout, à côté de lui même, souvent. Hélas, même avec un oiseau mort, n'est-ce pas? Enfin, hélas, c'est la vie. Donc c'est pour vous dire à quel point la poésie est essentielle, elle touchera les enfants, si vous la saisissez dans ces enjeux-là. Ce n'est pas un divertissement aimable, ce n'est pas pour faire guili-guili sur le menton, tout va bien, ce n'est pas mettre du parfum là où ça sent mauvais, ce n'est pas un bouquet de fleurs pour faire gentil. Et l'enfant, moi je sais par expérience que les enfants m'écoutent quand je leur dis des poèmes, s'ils entendent que ça vibre, que ça touche profond, que ça leur parle là où ça ne leur parle pas d'habitude. Que même, et moi j'adore raconter des histoires, je l'ai fait avec mes enfants, tant et plus, j'en ai écrit avec eux, mais qu'il y a autre chose que de l'histoire dans le poème, parce que l'histoire c'est très bref, le poème c'est très bref, et ça va d'emblée, disons là où ça fait mal, mais là où ça fait bien aussi, n'est-ce pas? Ça va d'emblée dans les grandes questions premières, et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est? On ne va pas dire, mais attendez les enfants, ils ont le temps de se poser des grandes questions. Ils n'ont pas le temps, ils se les posent, dès qu'ils ouvrent les yeux. D'ailleurs ils disent tous, pourquoi, comment, pour moi, et qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas plus questionneur qu'un enfant. C'est nous qui fermons les questions avec des réponses de dictionnaire. Parce que vous pouvez dire pourquoi le ciel est bleu, on peut dire donner réponse scientifique, mais ça ne suffit pas. Pourquoi l'oiseau vole, on peut dire. Il ne reste pas moins que pour tout être humain, le vol d'un oiseau est un miracle. Vous voyez, on pourra tout inventer, déplacer des montagnes, comme on le fait maintenant, détourner des fleuves, mais il restera ceci, le vol d'un oiseau est un miracle. Pour l'enfant comme pour nous à 95 ans, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que dit la poésie. Et c'est ça qu'il faut que vous témoigniez à travers votre lecture du poème. Alors, après, la question qui se pose, et après on converse, hein, puisque je voudrais consacrer le reste du temps à discuter avec vous, mais je voudrais répondre à cette question très précisément. Tu vas parler, Georges? Je ne parle pas, c'est... Vous m'entendez? Pardon, excuse-moi. Mais je vais vous laisser la parole. Non, l'autre question qui se pose à vous, j'en suis sûr, c'est la compréhension du poème. Forcément, vous parlez à des petits et vous leur lisez des poèmes. Alors souvent, vous comprenez, on a peur parce qu'on se dit, mais le poème, moi, je ne le comprends pas, comment l'enfant va le comprendre? Mais n'oubliez pas ceci, c'est que comprendre un poème n'a rien à voir avec ce qu'on appelle comprendre, en général. Et c'est là le grand malentendu. Je parlais des malentendus, vous savez. Mais je parle aussi bien de Lamartine, de François Villon, de Lamartine, de Vigny, que d'Apollinaire ou du poète d'aujourd'hui, je sais pas, moi Jean-Michel Maupois, Christian Prigent ou qui vous voulez, ou Georges Catalot. Le poète d'aujourd'hui, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que comprendre ici? Alors, comprendre, on a l'habitude, nous, de logico-rationnel, enfant de Descartes, et très bien, heureusement qu'on est enfant de Descartes, sinon il n'y aurait pas eu le siècle des Lumières, et on serait tous obscurantistes. Et on sait bien combien il faut se battre aujourd'hui encore contre les fanatismes et les superstitions. Je rejette pas mon Descartes. Sauf que l'effet pervers du cartésianisme, n'est-ce pas, c'est que nous ne voulons comprendre que dans la logique et le rationnel. C'est-à-dire que nous apprenons, moi j'étais prof, j'ai enseigné à des profs à enseigner la lecture, donc je sais très bien ce qu'on apprend, et l'écriture, etc. On apprend des normes rationnelles, rationalistes, j'allais dire même, presque, hein, militantes pour ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que lire, vous savez, prélever des sens, des micro-sens, faire des inférences, des catégorisations, etc., et puis des synthèses, et arriver à un sens bien assis, repérable et partageable. Ok ? Univoque, en fait. Ça veut dire ça. On lit un texte, on fait ses opérations mentales, et on en conclut tous que ça veut dire ça. Cette lecture-là, elle est univoque. C'est-à-dire, on doit toujours dire la même chose, si on a bien lu, bien compris, la même chose du texte qu'on a lu. Ben oui, cette lecture-là, elle est indispensable, cette lecture monosémique, à un seul sens. Elle est indispensable pour la consigne en cas d'incendie, hein, ou pour le mode d'emploi. Parce que quand vous lisez la consigne en cas d'incendie, s'il y a un incendie, il ne faut pas que vous dites, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est pas mal dit. Enfin, voilà, vous voyez. Donc, et oui, il faut là que ce soit un mot, un sens. Paf! Sauf que si vous avez compris tout à l'heure, cette langue monosémique, c'est celle qui domine, évidemment, pour tout. Même à la radio, on vous dit un mot, un sens. Hein, et on veut que vous compreniez un mot, un sens, immédiatement. Sauf que la poésie, elle est à l'envers de ça. Je vous l'ai dit, elle est polysémique. C'est-à-dire un mot, plusieurs sens. J'ai même pas dit plusieurs sens, j'ai multiplicité de sens. Ah ! Alors comment je fais ? Vous voyez ? Et c'est là que la question de la compréhension se pose. On a été habitué à lire ça, un mot, un sens. On lit un texte, on peut le résumer. Sauf que ça ne marchera jamais avec un poème. Parce que ce qui se dit dans le poème, c'est au-delà de ce qui se dit. Et vous pouvez résumer ce qui se dit, eh ben vous passez à côté du poème. Si je dis « Demain dès l'aube », bah oui, c'est l'histoire d'un père qui va sur la tombe de sa fille et qui est malheureux. Bah oui, c'est ça. Mais à quoi ça sert ? D'abord, le père, on ne le connaît pas. Il y en a beaucoup de pères malheureux. La fille, on ne la connaît pas. Ça s'est passé il y a très très longtemps. On dit ça à des enfants, mais enfin, vous pourriez être ému quand même. C'est un papa qui va sur la tombe. Mais ils s'en fichent, en fait. Excusez-moi. Et ce n'est pas parce qu'ils sont insensibles, etc. Ça ne les concerne pas. Par contre, si vous lisez le poème et qu'on a libéré la compréhension et qu'on sait que ce qui se comprend, c'est au-delà de ça, ce qui se dit dans ce poème, c'est bien au-delà de ça, c'est plus multiple, et on ne sait pas ce que ça va dire pour vous, pour vous, pour vous, et pour moi, alors là, ça devient passionnant. Et chacun, à la limite, un jour, peut dire, moi, j'ai lu ça, moi, je me suis lu comme ça dedans, moi, j'ai entendu ça et pas le reste. Vous savez, je fais un jeu souvent avec les enfants, je leur lis un poème avec des petits. Il dit, fermez les yeux, je vous lis un poème. Une fois, deux fois, trois fois. Un silence. Et maintenant, je demande à chaque enfant de me dire le mot ou les deux mots ou trois mots qu'il a gardé dans son oreille. C'est jamais le même d'un enfant à l'autre. Et là, vous avez une vraie lecture. Ce n'est pas une lecture du sens, c'est une lecture plus profonde. Vous savez, la clé de tout ça, Marina Tsetaïeva, grande poète russe, très très grande poète russe, une des plus grandes poètes du XXe siècle. Marina Tsetaïeva a dit un truc magnifique, elle dit, en poésie, il y a une chose qui est plus importante que le sens, et c'est la résonance. Et on a tout compris avec ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, justement, la caisse de résonance qu'est le poème nous amène à une infinie vibration du sens. Et donc, tout le monde a droit à sa lecture. Vous voyez comme on est loin de l'explication texte qui immobilise le sens du poème dans telle ou telle interprétation recevable et partageable. L'écriture en texte n'est pas sotte, mais elle passe à côté de la lecture du poème. Quand vous en faisiez l'explication de texte en classe, combien de fois vous êtes senti trahi par le travail qui se faisait entre de questions-réponses, d'analyses, mais au fond, il y avait quelque chose en vous qui avait à voir avec le poème qui ne se disait pas, qui ne pouvait pas se dire, qui ne pouvait pas se justifier, qui ne s'argumente pas. Et écoutez, on n'argumente pas l'amour, ni la colère, ni la sensation d'émerveillement le matin. Vous voyez, voilà. Ni la poésie d'une certaine façon, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, moi, je... Non, monsieur, j'essaie simplement d'essayer de clarifier. Mais vous avez le droit de penser ça. Hein. J'essaie, moi, au contraire, d'éclairer les choses, mais... Alors, je finis avec ça, puis après, je vous donne la parole, j'ai promis. De toute façon, la preuve, vous la prenez. Mais ça me vexe pas. Je peux entendre qu'on ne s'entend pas, c'est tout. Mais, j'ai essayé de faire le contraire. Moi, je disais simplement, justement, que par rapport à toutes nos habitudes, comprendre le poème, et pour l'enfant, vous devez être tout à fait à l'aise, la compréhension, elle est intime, subjective, personnelle. Il faut le laisser comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Il faut lui donner confiance, le rassurer. Si vous demandez le sens d'un mot, vous lui donnez le sens du mot, vous dites, mais je te donne le sens du mot, mais je ne te donne pas le sens du poème. Il n'y a que toi qui le trouveras. Vous comprenez, il y a tellement de poèmes dont moi-même, je ne comprends pas le sens de tel ou tel mot, chez Saint John Perse, chez Apollinaire, vous lisez la chanson du mal-aimé d'Apollinaire, « Mort d'immortels archiraspides ». Qu'est-ce que c'est que les archiraspides ? Cherchez dans le dictionnaire, vous ne trouvez pas. Il le sait bien, Apollinaire, qu'il utilise un mot que personne ne connaît. Et il le fait pourquoi ? Ben pour séduire notre oreille avec de l'inconnu. Et qu'on soit heureux avec ça. Vous savez, vous pouvez faire des mots très très simples et très connus et rien comprendre. Ça n'a rien à voir, vous voyez, ne rien comprendre. Je veux dire, le sens, même avec des mots très très simples, le sens est mystérieux. Un monde de rosée, c'est un monde de rosée, et pourtant, c'est mystérieux, non ? Pourtant, il n'y a pas plus simple. Alors, donc, la compréhension, il faut s'en libérer. Il faut être à l'aise. Lisez aux enfants les poèmes que vous. Enfin, en étant dedans, vous, simplement, et soyez en confiance, proposez le poème, laissez les enfants agir avec le poème, et dites bien à tous les enfants que s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave, qu'on n'est pas là pour ça, pour dire « je comprends, j'ai compris ci, j'ai compris ça ». On peut en discuter s'ils veulent, rien n'est interdit, mais soyez surtout dans une écoute ouverte. On forme les enfants à une écoute, parce que devenir lecteur, pour un enfant comme pour un adulte, devenir lecteur de poésie, c'est savoir écouter. C'est réapprendre à écouter. L'attention dont parlait Paul Celan, un grand poète allemand, il disait « les poèmes sont destinés aux attentifs ». Qu'est-ce que c'est que comprendre un poème ? C'est être attentif, complètement attentif, ouvert, gourmand, dans l'appétit de tout ce qui se dit, le son, le sens, la rime, la non-rime, l'émotion de l'image, le mystère de l'image. Et quand vous êtes dans cette émotion-là, cette vibration-là, tout d'un coup, quelque chose se passe. Essayez, partout où on dit des poèmes, dans l'espace d'aujourd'hui, dans le grand bavardage confus dont je vous parlais tout à l'heure, cet immense bruit, tam-tam de tout, d'images et de slogans publicitaires et de paroles. Vous arrivez, vous dites un poème, un seul vers, et quelque chose change dans l'air, dans la parole du poème, parce qu'on ne raconte pas une histoire, c'est pas « il était une fois », etc., qui a aussi sa valeur, hein, j'aime ça, mais c'est autre chose. Si je dis « hâte-toi de transmettre », ta part de rébellion, de... Et j'ai oublié la suite. Ta part de... Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Simplement ça. Hâte-toi de transmettre ta part de rébellion, de merveilleux, de bienfaisance. Ça suffit. Fais escorte à tes sources, ça commence comme ça. Hâte-toi de transmettre ta part de... Ou même à des enfants dans la classe, j'arrive et je dis... Dans le silence, parce qu'il n'y a pas de poésie sans silence. C'est sa caisse de résonance, c'est la marge à remplir, le silence, la chambre d'écho. Vous serez une part de la saveur du fruit. C'est tout. Moi, je fais ça avec des enfants de CM. J'arrive, ils m'attendent, je vais dire un poème. Pour leur dire bonjour, je dis, vous serez une part de la saveur du fruit. C'est de René Char, c'est un aphorisme, pour le coup. C'est rien d'autre. Et c'est ça le vers d'un poème, mais c'est aussi « et l'unique cordeau des trompettes marines ». Ça, c'est un alexandrin. un seul vers qui fait un poème d'Apollinaire. Mais n'importe quel morceau de poème, un fragment de poème dit dans l'air, posé dans l'air et dans le silence, fait vibrer l'air et le silence et nous met au diapason d'intensité dont je parlais tout à l'heure. La poésie, c'est nous rendre à notre intensité d'être, je vous ai dit, et cherchez que ça, et vous sauvez les enfants de tout le reste, et nous-mêmes d'ailleurs. Hein. Bon allez, on discute maintenant, et on peut débattre. Pardon, j'ai pas bien compris.
La poésie, vous l'avez exprimée chaque fois.
Oui.
Vous ressentiez quelque chose.
Oui.
De façon
d'exprimer différentes. Oui. Oui.
Donc c'est ça.
Oui, mais c'est-à-dire aussi, il y a des poèmes pour tous les moments de l'existence, des poèmes de tous les registres, il y a de la poésie drôle. Par exemple, Jean Lancel, il dit Dimment, dimment, quand tu me traites de cornichon, est-ce que j'ai vraiment l'air d'un condiment? Ouais, moi, j'adore ça. Et en même temps, je dis à des enfants aussi bien ça que le dernier poème de Desnos. J'ai rêvé tellement fort de toi, j'ai tellement parlé, j'ai tellement marché, j'ai tellement aimé ton ombre qu'il ne me reste plus rien de l'ombre. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Dernier poème. Je l'ai lu à des grandes sections de maternelle, je vous jure. À Firmini, je me souviens très bien, une classe de ZEP, avec des enfants qui sautaient comme des pop-corn. Mais j'aurais lu ça, silence. Vous savez, on peut lire des choses drôles aux enfants, et le drôle, ça marche, mais on ne va pas aussi loin qu'avec ça. Vous voyez, ça, c'est quoi? Ça parle de la mort et de l'amour. Puisque Desnos, c'est le dernier poème, on a trouvé ça sur lui au camp de concentration de Térésine, où il avait été déporté. Il était juif, poète et communiste, ça fait beaucoup. Et donc il a été déporté, il est mort là, et c'est un étudiant tchèque qui a trouvé ce poème sur lui. Ce poème pour sa femme Yuki, qui était restée à Paris. J'ai rêvé tellement fort de toi, j'ai tellement parlé, tellement marché, tellement aimé ton ombre qu'il me reste, etc., etc. Et moi je lis ça à des enfants, je ne raconte pas l'histoire aux enfants, je leur lis le texte. Ils m'écoutent, il y a l'ombre, il y a la mort, et il y a le soleil, il y a l'amour, il y a la tendresse. Pas besoin de discours, ils pigent, ça vibrait dans la classe. Mes petits pop-corn s'étaient arrêtés. Et je ne dis pas qu'on réussit tout le temps, mais moi, j'avais réussi avec ça. Et je me rappelle très bien, pour parler des différentes formes de poésie, il faut tout essayer, il faut tout faire entendre. Bien sûr, des jeux sur le langage. Je veux parler de la transgression légitime. Il faut dire du Tardieu, le cheval sautille, le cheval tombie. Et les gosses, ils rigolent. Génial, s'ils rigolent, ça veut dire qu'ils savent que ce n'est pas la règle. Quand un enfant rigole, quand je dis ce poème de Tardieu, je dis, ça va, c'est la grammaire. Ou s'il ne la savait pas, tout d'un coup, il s'en aperçoit. Il s'aperçoit qu'il savait. Vous voyez ? Qu'on ne dit pas sauti, mais qu'on dit sauta. Ouah ! Donc, on fait de la grammaire sans le savoir. Donc, on peut passer partout. Avec les enfants, il faut tout essayer, mais n'hésitez pas aux choses les plus mystérieuses. Par exemple, je lisais aussi à des enfants de maternelle des choses très, très mystérieuses, mais dans le silence, en moyenne section. Je dis simplement, c'est un poème. Je leur dis, c'est un poème. Il y a la fable, il y a le récit, il y a l'histoire, il y a la comptine. Et là, c'est un poème. Quand je venais, moi, j'étais le monsieur poème, de toute façon. Le barbu à poème. Donc, je venais et je vous dis un poème dans le silence. Je demandais que ça. Moyenne section, vous voyez, assis par terre. Je demandais que le silence. Et c'était 15-20 secondes. Parce qu'après, vous ne pouvez pas leur demander cette attention qui mobilise suffisamment pour recevoir le poème. Hein ? Surtout comme ça. Alors, je leur disais, par exemple... Voix lactée aux sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses. Nageurs morts, suivrons-nous d'Aan ton cours vers d'autres nébuleuses. Qu'est-ce qu'ils comprennent ? Une incantation ? Bon, Canaan... Mais peu importe. Voix lactée aux sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses. Nageurs morts, suivrons-nous d'Aan ton cours vers d'autres nébuleuses ? Eh bien, ce n'est pas un conte, ce n'est pas un récit, ce n'est pas une fable, c'est autre chose, ce n'est pas une comptine. Et ils ont dans l'oreille ça. J'avais compris ça quand une instite m'avait épaté, quand j'étais tout jeune, formateur d'enseignants. Je vais dans sa classe de moyenne section, elle leur lisait des poèmes. C'est elle qui m'a donné cette confiance. Moi, je n'aurais pas osé au début. Et elle leur lisait des petits extraits, tous les jours, elle leur lisait des petits extraits de poésie. Il y avait de tout, hein. Mais par exemple, comme elle était... très hispanisante, elle lisait même des poèmes espagnols, en espagnol et en français. de Machado. Et elle leur avait dit, un moment, un jour j'y étais, elle leur avait lu un extrait de Saint John Perse, ce dont je parlais, prix Nobel littérature, poésie très difficile et mystérieuse, mais difficile et mystérieuse pour vous, autant que pour l'enfant. Et je voyais que ça évoque la mer avec des termes étonnants. Mais ça ne fait rien, les enfants ont l'oreille pour le mystère. C'est nous qui avons peur pour eux. Et puis, où est le problème de la compréhension? Vous savez ce que disait Octavio Paz, aussi un prix Nobel, grand poète d'Amérique du Sud. Il disait, la poésie n'est pas incompréhensible, elle est inexplicable. Et alors, on comprend des choses profondément et intuitivement et intérieurement qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça, ce rapport-là, la poésie. C'est pour ça, ayez confiance. Quand vous lisez des poèmes aux enfants, sachez que tous les enfants ne seront pas émus par tel poème. Et c'est pour ça qu'il faut la variété, comme vous disiez. Absolument. Il y a des enfants qui vont être... Un jour, ont envie de rire, un jour, ont envie d'être émus, un jour, d'être dans l'introspection mystérieuse, un jour, dans l'étonnement, parce qu'il y a des poèmes d'étonnement. Vous pouvez lire un poème de Francis Ponge sur la poignée de porte ou sur la patate. C'est un poème étonnant, comme ça, sur les mains. Enfin, des extraits, au moins, vous voyez. Enfin, il y a de tout. Il y a la très bonne littérature jeunesse. Poésie jeunesse, je veux dire. Hein. Mais la poésie jeunesse, il faut m'expliquer de celle qui, à mon avis... vous savez qu'il y a ersatz de poésie, qui a tellement peur que l'enfant ne comprenne pas, qu'elle perd sa poésie, quoi. Elle perd le mystère. Alors, si c'est simplement pour faire trois mots avec une rime qui dit un joli petit sentiment de bonheur dans le matin, c'est pas tellement la vie de nos enfants. On peut parler du chat qui ronronne au coin du feu et l'oiseau qui chantonne sur la branche. Voilà, c'est véniel. Mais moi, si je prends le temps, et si on demande à vous de prendre le temps de lire des poèmes aux enfants, c'est pour qu'ils aient l'écho dans l'oreille, à travers le poème, de quelque chose de bien plus grand et plus important, qui les accompagnera toute leur vie. Qu'ils sachent un jour dire avec Verlaine, voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Ça suffit. Vous voyez comment il y a un charme au sens étymologique du mot dans le poème. Et on n'a pas à comprendre tous les mots, chacun s'apporte. Il y a un jour, vous avez envie d'entendre ça, et un jour, pas. Donc, quand vous lisez les poèmes aux enfants, il y en a, ils peuvent ne pas être du tout sensibles pendant deux séances, trois séances à ce que vous dites, et tout d'un coup, un jour, un poème, paf, fait tilt. C'est celui qu'il fallait pour eux. René Charles disait, le poème est toujours marié à quelqu'un. Il faut que vous trouviez le poème qui vous est marié, quoi. Et on peut être polygame, hein, pas de problème. Alors, donc, vous voyez, ce que vous dites est important. Il faut varier les tons, varier les formes, passer d'un poème à l'autre. Oui, Georges, pardon.
Tu as parlé du sable, du connu, de l'inconnu. Ça m'a fait penser à quelque chose qu'on a vécu avec quelqu'un qui vient de disparaître, qui s'appelle Albert Jacquard, que tout le monde connaît, qui est biogénéticien. Et il indiquait, comme l'image de l'iceberg, sur le connu, ce qu'on connaît, la prétention de ce qu'on connaît. Il disait, vous savez, on utilise à peu près 1/10 milliardième de nos connexions neuroniques, hein, là-dedans. Alors, si vous voulez savoir ce que ça fait, ça représente, pour imaginer, vous allez sur la plage, elle n'est pas loin, là, à côté, hein, vous prenez une poignée de sable, avec l'entre l'index et le pouce, vous prélevez 2 ou 3 grains, voyez-vous, et bien, le connu, ce que vous savez expliquer, c'est ça. Et tout le reste, on ne connaît pas. Et les plus grands génies, bon, c'est une pincée un peu plus importante, le Léonard de Vinci, etc. C'est juste une pincée. Et tout le reste, c'est tout ce qu'on ne connaît pas et qui est peut-être sûrement le domaine de la poésie, quoi. Voilà, c'est-à-dire l'autre part, l'inconnu de l'iceberg qu'on ne voit pas. C'est peut-être pour rebondir sur ce que...
Très bien, non, tu as dit ce qu'il fallait dire.
Voilà.
Donc, Achard disait aussi, comment vivre sans inconnu devant soi? C'est une question. Est-ce qu'on peut vivre sans inconnu devant soi? Malheureusement, beaucoup de gens vivent sans inconnu en ne voulant pas voir l'inconnu devant eux.
Oui.
Bon.
Je me dis... Comment faut-il la lire? Parce que si chacun dans le sable sent autre chose, je suppose qu'il ne faut pas faire passer ce que le lecteur sent et laisser à l'enfant la possibilité de lui sentir. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ne pas influencer la compréhension, quoi.
C'est pas sur un texte, c'est sur une attitude en général. Vous voyez ce que je veux dire ? Si les enfants comprennent que quand vous lisez le texte, ils ont toute la marge de liberté possible. Moi, je dis aux enfants, à petits, les petits de maternelle et jusqu'au primaire quand même, hein, tout se passe dans l'écoute. On devient lecteur de poésie en écoutant le poème. C'est comme ça que ça commence. Tout le monde. Ouais. Et, oui et non, je pense pas. Il y a une différence entre neutre, complètement neutre, et puis l'excès d'interprétation qui immobilise le sens, qui indique, c'est comme ci ou comme ça, qui c'est la lecture théâtralisée. Vous voyez ? Qui en rajoute et qui indique, par exemple, comme avec des clignotants, vous savez comment on fait, hein, faut que vous soyez triste, faut que vous soyez en colère, faut que vous rigoliez. Non, faut pas. Il faut laisser les gens agir. Donc, en même temps, vous avez le droit d'être présente dans le texte. Vous le lisez. Vous le lisez comme vous avez à lire, sincèrement, sans en rajouter, c'est tout. Il ne faut pas mettre en avant sa propre émotion. Il ne faut pas mettre en avant sa propre interprétation pour laisser la place aux autres. Parce que, par exemple, Fabrice Lucchini, qui est un type hyper doué, un grand talent, mais moi, je conteste sa façon de dire la poésie, parce que ce qu'il met en scène, ce n'est pas le poème, c'est lui. Et ce qu'on entend, c'est sa virtuosité. Alors, bien sûr que c'est un plaisir, mais comme on voit un acrobate faire avec son corps ce que nous, on n'est pas capable de faire. Vous voyez ? Mais moi, c'est pas ça que... Moi, je préfère... De mille fois, j'ai écrit un petit livre sur Laurent Terzieff, qui était un ami. Voilà, c'était pour moi le modèle absolu. Il était très présent dans le texte. Il n'était pas à voix blanche, neutre. Non, très présent, mais il nous laissait... Il nous amenait dans le texte. Il nous conduisait dedans, et simplement par sa vraie confiance à lui dans le texte, il nous restituait notre confiance. C'est-à-dire que vous êtes essentiel. C'est crucial ce que vous allez faire pour la poésie. Je crois vraiment, c'est pour ça que moi, j'ai sauté, comme disait Laurent, sur l'occasion d'irer faire lire la poésie. Parce que le procédé inventé ici est génial, magnifique. Ça se passe par la transmission, le poème, rien d'autre. Le discours savant, oui, on en a pour vous, pour les médiateurs. Voilà, monsieur. Moi, je suis obligé. Non, mais... Attendez, je vous donne la parole. Mais moi, je suis obligé d'avoir un discours savant pour des gens qui réfléchissent et qui ont rencontré des problèmes et essayé d'analyser. Mais quand je parle de la poésie, c'est ça que je dis. Je dis, pour la poésie, ça passe par la médiation silencieuse mais confiante. Votre rôle est important. Pardon ? Oui, mais il ne faut pas vous surajouter comme on dit, la pression, comme ils disent les jeunes. Là, hein. Non, simplement avoir confiance dans le poème, dans la force du poème, dans la nécessité de ce que vous faites. Voilà, ça c'est important. Et ne pas avoir peur que les enfants ne comprennent pas. Parce que sinon, vous n'allez rien leur lire que les choses qu'ils comprennent. Mais si vous ne lisez aux enfants que des choses qu'ils comprennent, vous ne leur lisez pas de la poésie. Bien sûr. Parce que regardez, pourquoi on continue à expliquer Homer ? Je suis bien d'accord, on continue à commenter Homer. Vous êtes d'accord avec ça ? Shakespeare et Villon, on continue à les commenter, parce que leur sens est inépuisable. Vous savez, il y a encore une chose magnifique qui a été dite, je ne sais plus par qui, un poème. Le poème est obscur, non pas parce qu'on ne le comprend pas, mais parce qu'on n'a jamais fini de le comprendre. Alors, je ne sais plus quel poète a dit ça. Le poème est obscur, non pas parce qu'on ne le comprend pas, mais parce qu'on n'a jamais fini de le comprendre. Le truc du poème, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de limite à sa compréhension. Aujourd'hui, on continue à lire différemment. Vous lisez, la balade des pendules, Lyon, et frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Bon, il l'écrivait dans un contexte du Moyen-Âge où il y avait plein de morts dans la rue, pire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Où la mort était très présente, les morts pendaient au gibet, etc. Et ça parlait à tout le monde, mais aujourd'hui ça parle pareil, mais autrement. Parce qu'il y a des siècles qui sont passés. Mais quand il dit frères humains qui après nous vivaient, on est tous concernés. Puis les corbeaux vous ont les yeux cavés, etc. Et moi je crois que simplement, il faut avoir confiance. Ce qu'on vous a ôté, c'est la confiance, parce que quand vous lisiez un poème, il y avait un professeur invisible sur votre épaule qui disait « Qu'est-ce que le poète a voulu dire ?» Moi, j'en sais rien. Vous savez, moi, je lis de la poésie tous les jours, de la poésie du monde entier, tous les jours. C'est mon métier, c'est ma fonction. Je dirige des jurys de prix, je travaille dans l'édition, je dirige le Printemps des poètes. Je lis la poésie tous les jours, depuis quasiment l'âge de 15 ans, je lis la poésie tous les jours. Mais je suis absolument incapable, et je ne le ferai pas, incapable de dire ce poème veut dire ceci et pas autre chose. On n'en sait rien. On peut, bien sûr, s'accorder, on fait des thèses entières de 1000 pages, sur tel poète pour dire, voilà, sa manière de parler, sa manière, comme on dirait, tiens, celui-là, il a telle manière de marcher et de penser. Mais ça ne veut pas dire que ça épuise notre lecture. Vous voyez que moi, si je lis le poème de Desnos que je vous ai dit tout à l'heure à des enfants de maternelle, des enfants de CM ou des enfants de ou à des adultes comme vous, c'est pas tout à fait la même chose. Mais chacun y trouve son sens et sa pertinence. Moi, je voudrais que vous soyez très à l'aise. Si le poème est bien présent dans le silence et que ce sont des poèmes qui, il faut qu'ils soient des poèmes chargés, je veux dire, qui aient une valeur. Si le poème vous le posez comme ça, il a sa force irradiante. Et votre rôle est essentiel parce que sans vous, l'enfant n'ira pas. Et je dis même sans vous, l'adulte n'irait pas si vous pouviez lire à d'autres, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je crois que la façon, c'est ce que j'essaie de faire pendant les poètes, la façon de ramener la poésie dans le partage universel. On n'a pas besoin, il ne s'agit pas qu'on devienne des spécialistes, qu'on devienne qu'on ait la médaille du poème, ou je ne sais pas quoi, on s'en fiche. Simplement que le poème soit partagé, qu'on ait à nouveau droit tous à cette parole. Et je pense qu'on a besoin de passeurs, de gens qui aient repris confiance dans le poème et qui le disent aux autres. Évidemment, sans discours. Moi, je me suis battu, justement, toute ma vie pour qu'on n'enferme pas la poésie dans le discours théorique. Mais il faut bien que je traverse la France comme je fais depuis 20 ans maintenant, à faire des propos comme ça deux fois par semaine pour déculpabiliser. Parce que moi-même, qui suis universitaire, agrégé, vous savez, j'ai tous les diplômes, ça va. Oui, oui. Non, monsieur, j'espère que non. Justement, je dis tout le contraire de tout ce que disent mes collègues. Alors là, croyez-moi.
De la même façon qu'eux.
Mais vous avez le droit de le penser.
Je
crois pourtant avoir essayé de dire les choses sans pédantisme.
Non, mais je dirais que moi, je vais vous dire ma surprise, parce que j'étais venu là pour entendre la définition de la poésie, votre définition de la poésie, parce que je vous connais, et puis qu'est-ce qui la différencie des autres formes d'expression. Et vous avez dans votre discours, je dirais, savant, académique, logoréique sur la poésie, répondu à ces choses. Moi, ce que j'ai retenu dans votre discours, c'est qu'il faut laisser... J'ai bien apprécié votre définition de la poésie. Bon, c'est ce que j'attendais de cet atelier. Hein, vous l'avez défini, je vais vous la dire, ce que j'ai retenu. Hein, c'est que la poésie, c'est ce qui déborde toute forme d'expression traditionnelle. Alors moi, j'ai traduit, c'est une expression atypique. Hein, moi, je dirais que... atypique, de forte intensité, et vous avez ajouté, c'est quand la montagne dépasse le mot qui la désigne,
il y a
un poème. Attendez, bon, donc j'ai retenu ça. Maintenant, dans votre discours, j'ai entendu, j'ai compris, mais tout le discours, toute la logorée, le nombre de mots que vous avez employés, votre type de débit, etc., m'a saoulé, je tiens à le dire, je donne mon ressenti. Hein. Donc, autrement dit, je dis que c'est un discours anti-poétique, c'est-à-dire qu'il est traditionnel, il est académique, il est savant, il est d'un universitaire, il est d'un agrégé, etc. Et donc, il est pour moi anti-poétique. Voilà. Donc, je le regrette. Maintenant, il a répondu à certaines de mes questions, mais je suis vous n'avez pas laissé la montagne dépasser vos mots, parce qu'il y a tellement de mots qu'on est saoulé. Moi, j'ai été saoulé, du moins.
Monsieur, c'est pas grave, hein. Vous entendrez d'autres personnes parler de la poésie et vous convaincront davantage. Moi, je parle avec ma conviction, c'est tout. Je prétends pas. En plus, faites pas dire. Mais c'est bien, on n'est pas... Moi, je ne prétends pas faire le consensus, vous savez. Je suis très content du dissensus.
Oui, pour rester dans le titre de la réunion, devenir lecteur de poésie, pour aller dans le sens de ce que disait madame, quand vous lisez trois fois le même poème, vous ne le lisez pas trois fois de la même façon. À chaque fois, il est ressenti différemment. Et c'est ça qui est important. C'est le ressenti, ce n'est pas la compréhension.
C'est en ça que je ne crois pas avoir tenu un discours académique, parce que, excusez-moi monsieur, je peux entendre beaucoup de choses et beaucoup d'objections, il n'y a pas de raison, mon point de vue est un point de vue, mais il y a une chose que je ne peux pas entendre, c'est que mon discours soit académique, il est tellement entendu partout où je passe, comme le contraire, au sein de l'enseignement, je me suis toujours battu contre tout ce que j'ai dit, va contre toutes les pratiques habituelles. Voilà, c'est tout. Oui. Mais donc, vous pouvez dire beaucoup de choses, mais ça... Bon, c'est pas grave.
je voulais vous poser une question, monsieur. Ça marche pas. Si ? Moi, je voulais vous poser une question. Deuxième fois, est-ce que je peux vous poser une question ? Oui ? Est-ce que vous écrivez des poèmes ? C'est tout.
Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. J'ai appris beaucoup de choses. J'étais passionnée. Et ce que je voudrais savoir, c'est si les fables de La Fontaine, on peut les raconter sans problème en maternelle.
Les fables de La Fontaine ?
Oui.
Bien sûr. Il n'y a pas d'interdit. Les fables de La Fontaine, ce sont... Alors, le problème... C'est qu'il y a confusion souvent. La Fontaine est un poète, c'est évident. Mais vous savez, c'est aussi un fabuliste. Et on peut écrire des fables en prose. Là où il est poète, c'est pas dans la fable, c'est à l'intérieur de la fable, comment il utilise le vers, la langue. Justement, quand il parle dans le courant du nom d'eau pure, c'est là qu'il est poète. C'est pas tant l'histoire du loup et de l'agneau. Vous voyez, c'est un grand, grand poète, immense, parce qu'il dit plus que l'histoire. Toujours pareil. Vous voyez, bien sûr que La Fontaine, il faut le lire avec... Mais il faut lire de tout. Moi, c'est ma conviction. Il faut lire du Guilvic, vous voyez, et à côté du La Fontaine. C'est tellement différent, mais c'est de la poésie. Voilà. Et en tout cas, bien, ne vous interdisez pas de lire La Fontaine, c'est un immense poète. Mais on lit de La Fontaine. Il faut savoir deux choses à propos de La Fontaine. C'est qu'il n'a jamais écrit pour des enfants. La Fontaine écrivait pour des adultes. Et vous savez pour quels adultes ? Les adultes qui, au XVIIe siècle, savaient lire et avaient lu de la philo. C'est-à-dire, il écrivait pour quelques milliers de gens, lettrés, qui connaissaient le latin et le grec. Combien de personnes savaient lire au XVIIe siècle ? Lisez l'histoire de la lecture, vous verrez. Alors, il écrivait pour une toute petite élite et des gens savants. Donc vous comprenez que La Fontaine, quand on le fait lire aux enfants, lui-même, il serait un peu triste que ce soit lu que par des enfants. Et il ne regretterait pas que ce soit lu par des enfants. Mais l'animal était un prétexte pour lui. Il a utilisé Ésope parce que le propos de La Fontaine, c'est, vous avez un numéro de la revue Europe consacré à La Fontaine, magnifique, il y en a plein de livres qui ont été consacrés à La Fontaine, qui montre que La Fontaine tenait un propos politique, philosophique. Par exemple, philosophique, c'est évident. Il a écrit un poème qui s'appelle Rien de trop, qui est un commentaire de la philosophie grecque. C'était un immense savant. Donc, vous comprenez qu'il y a chez La Fontaine autre chose que La Fontaine qu'on connaît habituellement. Ceci dit, il y a un tel art de raconter, il y a une telle source d'émerveillement dans La Fontaine qu'il faut bien sûr en lire aux enfants. Mais vous voyez, il faut prendre le temps de lire aux enfants des poèmes, peut-être des fables de La Fontaine moins connues. Sortir un peu des sentiers battus. Ça se trouve, hein, les fables de La Fontaine, au dehors des deux ou trois qu'on lit toujours, le corbeau et le renard, etc. Et on aura des surprises. Et surtout, il faut faire apparaître dans La Fontaine, moi je vous conseille, des fables plus courtes, où on entend plus la poésie de La Fontaine. Vous voyez ? Pas seulement le récit, ce qui est au-delà du récit. Voilà. La fameuse phrase qui n'est pas de moi, monsieur, qui est d'un prix Nobel de littérature. Vous savez, les 9% de ce que 9 dixièmes de ce que j'ai dit là, je l'ai emprunté à des poètes bien plus légitimes que moi. Donc, ce n'est pas moi qui parle, je donnais la parole aux autres pour informer. Et donc, ce que disait, vous savez, Elitis, oui, là où la montagne dépasse du mot qui la désigne, il y a un poète. Chez La Fontaine, c'est sans arrêt. On entend autre chose que ce qui est dit. Se désaltérer dans le courant du nom du pur. Vous vous rappelez ce poème-là ? Et derrière, quand vous lisez le poème, vous voyez de la poésie du paysage qu'il y a. La sensation que nous avons tous un matin au bord d'une eau claire, avec des graviers, dans la fraîcheur du matin, dans la montagne. Vous voyez ? Ou dans une campagne. Et c'est ça la poésie de La Fontaine. L'histoire, il ne l'a pas inventée, et elle a souvent, d'ailleurs, elle fait souvent des allusions politiques de l'époque. Vous savez, excusez-moi d'être savant, mais j'ai été obligé d'étudier ça, parce que c'était à mon programme d'agrég, justement. Donc moi, j'ai découvert à La Fontaine que j'ignorais. Et par exemple, que tout dans La Fontaine est connoté. Que ça parle comme des gens qui font des romans à clé aujourd'hui qui parlent des hommes politiques. La Fontaine, il était à la cour du roi. Il était même stipendié par le roi, n'est-ce pas ? C'était un grand fonctionnaire de l'État. Donc il y a des allusions perpétuelles dans les fables à des gens de l'époque, à Louis XIV. À son, vous savez ça ? Voilà, tout ça pour dire qu'il faut bien sûr lire La Fontaine, il faut le lire au niveau du poème. Mais si on n'a pas peur de lire La Fontaine, alors il ne faut pas avoir peur de lire des poèmes d'aujourd'hui. Ce n'est pas plus compliqué, La Fontaine. C'est même parfois plus compliqué que la poésie d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Ni plus ni moins. Et n'oubliez pas que beaucoup d'enfants n'entendent pas le trois... Alors, on va dire la moitié du lexique de La Fontaine, qui est vieilli. Mais pourtant, le charme opère. Et je dirais que le charme opère parce qu'ils n'entendent pas tout, parce qu'ils savent, comment je veux dire, ils ne comprennent pas tout. Dès qu'on est affronté à ce mystère, voilà, tout d'un coup, quelque chose vibre. Et les enfants, ils le sentent. Il y a l'histoire, il y a plus que l'histoire. En tout cas, je complète d'une chose, quand vous choisissez des textes, n'hésitez pas à faire se côtoyer du classique et du contemporain, du moderne et de l'ancien. La poésie, moi je lis, et j'espère que vous le ferez aussi bien, je ne sais pas, Tranströmer, le poète qui a eu le prix Nobel, le Suédois qui a eu le prix Nobel il y a l'an dernier, et puis relire avec passion, je ne sais pas moi, un poème de Malherbe, pourquoi pas, vous voyez ? Et ce n'est pas Malherbe le plus facile, hein, même pour moi. Le classique n'est pas le plus facile. Mais en tout cas, il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Et lisez selon votre goût. Vous ne donnez aucune obligation. Lisez ce que vous aimez.
Alors, je voudrais dire bienheureux printemps des poètes. Parce qu'en fait, je m'occupe de jeunes, en fait, de 15 à 22 ans. Vous avez beaucoup parlé de la poésie près des enfants, mais je m'y retrouve beaucoup. Et... j'avais un trac énorme, puisque j'ai fait une lecture le jour du printemps des poètes, donc le 21 mars, avec ces jeunes, ils étaient 8, donc ils sont en rupture scolaire pour des problèmes psychologiques. Et je m'étais donné d'arriver avec un livre de poèmes. Et j'ai lu ces poèmes avec eux, et je leur ai dit ce que vous avez très bien dit, et ce que je trouve magnifique, c'est de parler de résonance. Et parce qu'ils étaient un peu affolés quand je leur ai dit qu'on allait lire des poèmes. Et je leur ai dit, laissez résonner en vous certains mots. Et après, j'ai distribué des petites cartes de couleurs avec des crayons de couleurs. Et ils ont écrit un mot, deux mots qui avaient fait résonance pour eux. Et je trouve que c'est quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Et je voudrais dire qu'en fait, il faut effectivement oser la poésie, même avec les jeunes, et des jeunes qui pourtant... sont assez... Voilà. Donc je voulais vous remercier pour cette initiative du Printemps des Poètes. J'imaginais jamais vivre un tel moment.
Vous savez, le Printemps des Poètes, c'est vous qui le faites. Hein. C'est vous qui le faites, pas nous. Hein. C'est justement ça. C'est essayer des choses. Mais votre témoignage me touche beaucoup parce qu'il faut que ça se multiplie. Vous savez, c'est souvent le public qu'on croit les moins autorisés à la poésie qui sont le plus sensibles à la poésie. Parce qu'ils n'ont pas ce regard scolaire que nous, on a. Ils vont directement, ils entendent, ça vibre. Moi, je lis à des jeunes en difficulté. Alors, je suis allé dans les prisons, je suis allé partout, à TD Carmont. À des jeunes en difficulté, on peut lire, par exemple, des poèmes d'amour d'Éluard. Mais c'est une langue très loin de leur langue. Mais c'est pas grave. Ils entendent tout de suite, ou je sais pas, toi la seule et j'entends les herbes de ton rire. Ça parle à tout le monde, non ? Vous savez, ce poème, grand poème d'amour, des derniers poèmes d'amour d'Éluard. Un adolescent, il est de plein pied là-dedans. Oui, donc on n'a pas assez d'audace. Et en fait, nous-mêmes, pour lire des poèmes, quand vous êtes devant un poème, il faut le lire à haute voix pour vous-même.
Voilà.
Et le laisser vous écouter vous-même.
J'avais demandé le micro pour dire ça. Parce que j'ai vécu une réconciliation avec la poésie en allant à l'ODEV, en allant à Sète, écouter des poètes, dire dans leur langue. Et du coup, j'ai réalisé quel bonheur c'était. Et j'étais fâchée parce que je n'arrivais pas à lire de la poésie, des livres de poésie. Et j'ai retrouvé ce plaisir parce que, du coup, lire, maintenant, lire à haute voix, oui. Il n'y a que comme ça que je peux la lire et l'écouter, entendre des poètes dire leurs poèmes. Pour moi, maintenant, ça passe complètement par l'oralité. Je peux pas... voilà, il y a une dimension là, orale de la poésie que je trouve complètement essentielle. Je voudrais juste aussi rajouter quelque chose par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure avec ce monsieur. Et je trouve que je ne comprends pas très bien pourquoi il y a cette polémique. Ce monsieur a dit ce qu'il ressentait. Vous n'avez pas à vous défendre de votre façon de parler de la poésie, mais je trouve aussi qu'il peut dire que lui, il n'a pas ressenti. Moi, je suis un petit peu. Je ressens un peu ça aussi. La dimension intuitive de la poésie, elle a été très peu présente parce que vous avez dit beaucoup de choses qui s'adressaient à notre mental. Vous voyez ce que je veux dire ? Forcément. Et donc, si c'est ce qu'il a voulu dire, je le comprends. Voilà. Et il n'y a pas à s'invectiver ou à se reprocher des choses à ce niveau-là. Et le ressenti doit se dire, doit pouvoir s'exprimer.
Oui, vous savez, moi,